Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 50 de...
Fin de séance.
Aujourd'hui, je recevais...
Pierre-Julien.
Juan Iban.
Pour parler de Fast and Furious 8. The Fate of the Furious.
Vin Diesel.
Sorti le 12 avril 2017. Nous sommes le 13 avril.
Michelle Rodriguez.
Aujourd'hui, 2017. Un film de Felix Gary Gray, qui était réalisateur de Straight Outta Compton.
Governor.
Ce film est un film avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, comme vous avez pu l'entendre, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Helen Mirren,
Charlize
Theron et tout le monde. C'est très difficile de faire ça. Et vous allez savoir pourquoi ce film est à la fois génial et à la fois discutable. En écoutant cet épisode, n'oubliez pas... Qu'est-ce que... PJ, regarde, dans ma vie, j'ai besoin de faire quoi?
Tu vas sur la page Facebook de Fin de Séance.
Ouais, il faut like. Faire... Il faut liker,
et
c'est
tu
ça.
Tu lâches un com.
Et tu lâches un com, il faut lâcher un com. Je...
Sur iTunes également.
Tu vas sur iTunes,
ouais.
Et tu lâches 5 étoiles.
Je lâche 5 étoiles et je mets un com là aussi ou pas?
Ouais, et ouais. Après tu vas sur le podcast Rendez-vous à table.
j'écoute quand PJ parle, c'est ça?
Non, comme Areski parle.
Ok, très bien.
Il y a des newcomers en dessert d'ailleurs.
D'accord, il faut écouter tous les épisodes de tout. Mais en tout cas, pour fin de séance, vraiment, allez liker la page. On vous donne votre voix aussi, puisque vous allez pouvoir choisir les films qu'on va critiquer. Hein, vous l'avez déjà fait. Pour notre plus grand malheur, d'ailleurs, quelquefois. Et merci à tous ceux qui l'ont fait, déjà. Voilà. Merci à tous. Merci aux gens qui nous écoutent. Gros bisous. Je vous laisse écouter cet épisode.
Comme ça. Non, s'il y a peut-être des infos à aller chercher, tu sais, genre sur le tuning, les écoles de tuning, le dub.
Sur Cuba.
Ouais.
On peut commencer là.
Mais là, en fait, là, ça a déjà commencé. Hein. Je vous enregistre depuis le début. Hein.
Bon, on commence par quoi du coup?
Bah, on commence par les trailers qu'on a vus. Du coup, bah, justement, City of Tiny Lights avant d'enchaîner sur les deux autres trailers de gros fat.
T'as vu comment Areski il expérimente sur notre dos, on est des petits rats de laboratoire, tu sais?
Ces herbes de gars sympa, il est trop malévolent.
C'est très vrai que moi, si on m'avait donné des gens, j'aurais fait des expériences sur eux.
Il a breveté ta tête hein, déjà pour
breveter les jeunes jeune de PJ. Tu sais,
à Pierre Fabre, tu sais. Il revend ta voix à Pierre Fabre.
City of Tiny Lights, là, le petit trailer qu'on a vu.
Avec Riz Ahmed.
Ouais. Qui jouait donc dans
The Night Of principalement, si vous le connaissez pas, c'est
ouais The Night Of, mais
dans Rogue One,
Four Lions et Rogue One, et c'est un très bon acteur.
Et le dernier Bourne aussi.
Ah,
Bourne ouais. Heritage.
Il jouait qui?
Ah oui, où il jouait un tech guy, c'est ça?
Ouais, mais exact. pas celui avec Rainer, hein, c'est le dernier.
Oui,
avec,
le dernier,
avec
le cinquième.
Damon,
ah ouais, d'accord. Qui était nul d'ailleurs.
Non, il était, ouais. C'était pas
et,
mal.
Et du coup, ouais, ce film City of Tiny Lights, réalisé. Enfin, la bande annonce me paraissait bien pendant la moitié de la bande annonce et après elle durait trop longtemps quoi.
Fiche produit très intéressante puisque petit détective movie un peu gritty, un peu à la Luther, genre dans le Londres de la nuit. Donc Londres criminel, ça a l'air plutôt cool et en fait la bande annonce laisse penser que ça va être peut-être un petit peu dilué, ça va être un peu popisé tout ça quoi, ça a pas l'air si gritty que ça.
Ça veut dire quoi gritty?
Ça veut dire c'est un peu sombre, un peu sombre. C'est un peu viscéral quoi, tu vois, c'est
d'accord.
Un petit peu le.
Tu sens de la poussière, des traces de suie dessus.
C'est ça.
Et il avait fait Dread et moi j'avais plutôt bien aimé le film Dread, donc c'est le remake de Judge Dread qui était en fait déjà un remake de The Red. Vous vous souvenez de The Red, le film indonésien là, enfin le film
qui était fait par un Écossais en Indonésie.
Non.
Ah, mais vous l'avez pas vu, Dorel ?
Non.
Mais il est trop bien, celui-là. En gros, c'est des flics qui arrivent dans un immeuble de malfrats.
Ouais.
Et qui doivent arriver à l'étage où il y a Uber Boss en haut. Et en fait, dans Dread, ils ont refait la même chose, en fait. Et c'était plutôt bien fait. Donc, c'était bien réalisé. Donc, ça se trouve, ce film, ça va être plutôt bien.
Est-ce que ça serait pas un peu remaké sur l'idée de The Red, là, le film asiat, là, où, tu sais, c'est, je sais plus de quel pays c'est, tu sais, ce film où il rentre dans un...
C'est ce que je viens de dire.
Ah, merde.
Savoir que Jean-Yves vient de se tranquiller un petit
peu. Ah, mais c'est Red. C'est Red R.A.I.D., on est d'accord.
Oui,
d'accord.
Oui, mais Dread a refait Red.
Oui, 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 tout à fait. En moins bien.
Oui, un peu en moins. Bah, déjà, parce que c'est copié. Mais ouais, ils ont juste apposé le skin de Judge Dredd dedans. Mais bon. Ce qui est pas con, en fait. Hein.
Ils se sont fait un peu Dreadwashé quelque part. Pourquoi on n'a pas regardé le trailer de Baywatch? Ça avait l'air vachement mieux, en fait.
Non, c'est vrai.
Ça avait l'air très.
On n'avait pas déjà parlé de Baywatch. De toute façon,
on n'en parle jamais assez. Hein.
On n'en parle jamais assez.
Des maillots de bain.
On va en parler assez, je pense, de The Rock, là, tout à l'heure. Il y a assez. Aussi, toi, t'as été subjugué, PJ, par le trailer de Valerian qui est sorti hier.
Ah, tout à fait.
Avant qu'on voit Fast and Furious 8.
Bah, il y a.
Parle-nous de Valerian.
Alors, Valerian.
T'avais lu la BD? Parce que moi, je connais rien du tout.
Alors, j'ai lu un album. Et c'est tout. Il faudrait que j'en lise d'autres, d'ailleurs. Valérian, il y a un côté visuel qui me plaît. C'est Star Wars. Ça fait Mass Effect aussi un peu.
Un côté sucré.
Un peu Avatar, ouais, c'est ça. Un peu sucré. Après, si j'ai bien compris, c'est Luc Besson qui réalise.
Ouais.
Donc vraisemblablement, ça va être de pourri, quoi. Mais il y a cet espoir à partir de la bande annonce, parce que c'est beau.
La bande annonce elle-même, elle t'a plu?
La bande annonce, bah il y a des vaisseaux, il y a des extraterrestres, donc c'est forcément bien.
Ça a l'air quand même tout ça bien teeny movie, quoi. Hein. Ça a l'air très teen.
Moi visuellement, ça m'a au cinéma hier, ça m'a plu. Et à chaque fois, par contre, que quelqu'un ouvrait la bouche, c'était pour dire des trucs tellement basiques que ça me faisait chier, ouais. Tu sais. Oh, time flies when you're having fun.
Okay. Puis, ça a l'air d'être un peu un remake du cinquième élément, puisqu'il y a Rihanna, ouais, à la place de Mai Wen dans le rôle de la diva.
Il y a beaucoup de chops du cinquième élément.
Il y a un Jabba aussi, il y a une sorte de Jabba.
Ouais, une sorte de Jabba qui pourrait un peu ressembler au chef des,
Totalement.
Des Aknot, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Ah oui, le chef des guerriers dans le cinquième élément.
Mais ouais, je sais pas trop.
Donc vraisemblablement, ça va pas être bien, mais l'espoir est toujours permis.
Après avoir revu la bande-annonce là sur ma télé, avoir le truc moins grandiose du cinéma, j'ai l'impression que c'est pas très bien, en fait.
Si, c'est bien, c'est bien.
Qui n'a pas l'air d'être une super actrice, au passage. Ça a pas l'air
très charismatique. Vous les avez vus sur Suicide Squad, pas?
Ah, elle était. Ah oui, c'est vrai.
Mais c'était l'enchantresse, là, de Suicide Squad. Genre, elle fait rien, quoi.
Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi le film s'appelle Valerian et non pas Valerian et Laureline.
C'est le titre de la BD, ça, de base?
C'est le titre de la BD, il me semble, Valerian et Laureline, parce qu'ils sont aussi importants l'un que l'autre, je crois. Et là...
Il la présente, effectivement, dans le film, mais le titre, c'est que Valerian.
Et je sais pas.
À savoir que Cara Delevingne a sorti une biographie à 22 ans, parce qu'elle a tout vécu, donc...
Ouais, peut-être qu'elle l'explique.
Pour raconter qu'est-ce qui s'est passé sur le
tournage,
catwalk, tout ça, Ouais, une vie bien remplie.
C'est là que j'ai eu 16 en bio. Ok. La meuf, quoi. Mais c'est vrai qu'elle joue quand même comme une statue, quoi, en fait. Elle est vraiment là que pour montrer ses boobs, quoi.
Ouais, mais ça a l'air très... je sais pas, c'est... Mais en même temps, c'est tout à son honneur, parce qu'il a t'arrives quand même, c'est marrant, parce que quand tu vois la balance, tu dis, ah, c'est un Europacorp Besson, il y a une espèce d'empreinte visuelle, en fait.
Une patte, ouais, peut-être.
Tu vois direct que c'est un Besson Europacorp.
Après, pour contrebalancer tous les trucs gritty qui sortent, comme tu disais,
ouais,
c'est pas mal d'avoir quelque chose de lumineux, coloré,
décérébré...
Comme ça.
Et puis, on a quand même pas souvent de space opéra en dehors de franchises très connues comme Star Wars, donc c'est bien de voir un peu de space opéra. Mais
après, ça va être la création d'une nouvelle franchise, mais au moins il y a ça.
C'est ça. Et tu sais que d'une certaine façon, moi, j'ai envie de vomir quand on étale un petit peu un environnement pour en créer une, pour préparer la franchise.
Ouais.
Et là, t'es préparé à ça même dès la bande-annonce. Dès la bande-annonce, t'as déjà tout est posé déjà pour te dire il va y avoir
d'autres derrière. Parce que tu sais, c'est Valerian et la cité de 1000 planètes, je sais pas quoi là, tu vois. Donc quelque part, il y a ce petit côté de le 2, ça va être Valerian et ta mère en slip, tu vois. Et je sais pas. À voir.
Et puis, je sais pas, mais par rapport aux souvenirs que j'ai de la BD, mais il me semble qu'ils sont plus âgés et un peu plus mûrs, un peu plus matures, je pense, les Valérian et Laureline dans la BD. Là, ça a l'air d'être vraiment des gosses, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est, il me semble, que c'est un peu des scientifiques, un peu cultivés, etc. Là, ils ont l'air un peu quiche, donc.
Ah ouais, parce que là, c'est vrai qu'on dirait un peu des adolescents.
Tu sais, ça me fait penser
à... Même si les acteurs ne le sont pas forcément.
Dans l'esprit, ça me fait penser à ce film qu'il y avait eu. C'est pour ça que ça, je reviens sur la vague teenager. C'était un film de un peu genre, je sais pas trop si c'était de la SF ou genre plus du space opera avec Harrison Ford où c'était que des gamins. Tu te rappelles pas ce film?
Avec Harrison Ford?
Ouais. Un film, il y a, tu sais, où ils se rendent compte qu'ils sont un peu dans un espèce de jeu, comment ça s'appelait ce truc? Ça va me revenir. Mais, j'ai l'impression qu'il y a un peu une vague de ce genre de film. SF, un peu teen movie, c'est un peu du teen movie SF, quoi. Il y en a pas mal, j'ai l'impression, ces temps-ci.
Est-ce qu'il y en a vraiment pas mal? Parce que moi, je cherchais dans ma tête de la SF colorée, etc. Et en fait, ce que je pensais.
À la poursuite de Tomorrowland. C'est pas de la SF?
C'est pas vraiment la SF, okay. En fait. Parce qu'en fait, enfin, si, c'est de la SF, mais si tu veux, les parties SF, c'est pas un space opéra, en tout cas.
Ouais.
Jupiter Ascending.
Ah ouais, effectivement.
Que je n'ai pas vu, mais...
Jupiter Ascending, ouais.
C'est pas celui-là, mais c'est dans l'esprit, ouais.
Qui était en bon regardage nanar. Ça, c'était bien marré, parce que ce film n'avait aucun sens. D'ailleurs, il y a des loups-garous comme Jean-Yves dedans.
Ouais, c'est bon, c'est bon.
Et en fait, Marvel.
Parce la que stratégie Ender, voilà, c'était ça le film.
La stratégie Ender. Ouais. C'est aussi, c'est plein de bouquins.
C'est tiré d'un livre.
Oui, mais pareil,
ça, par contre, c'est pas joyeux ni lumineux.
Oui,
ni
mais en fait, c'est bourré de teenagers dans le film, quoi.
Effectivement. Mais ça, c'est
livre est bourré de teenagers.
Sur le Twilight divergent, voilà. Truc.
Ouais. Et pourtant, les livres ne ressemblent pas à ça. Enfin, les livres, c'est pas de la littérature adolescente, type Twilight.
Ils l'ont reconverti pour happer des teens pour aller voir le film.
Je pense parce que j'avais lu le premier tome de la stratégie Ender et c'est pas ce genre de littérature, c'est de la vraie SF.
C'était quand même des, ouais.
Mais les protagonistes sont des adolescents. Mais c'est pas de...
C'est pas des coming of age.
Non, voilà. Exactement.
Mais ce que j'allais dire en termes de SF Space Opera, mais en fait, c'est Marvel qui a fait ça avec Guardians of the Galaxy au final. Et cool. D'ailleurs, les Thor. Excellente transition, puisque la troisième bande-annonce qu'on a vue, c'est Thor 3. Où là, du coup, on s'extirpe un peu du monde d'habitude ésotérique. Mais je sais pas si vous aviez vu Thor 1 et 2.
Si, alors j'ai vu le 1, simplement.
Ok.
Moi, j'avais ni le 1 ni le 2.
Et en gros, là, on voit qu'en fait, Thor... Et juste un extraterrestre dans l'espace, quoi, dans cette bande-annonce-là. Et franchement, moi, c'est la bande-annonce que j'ai préférée de ces trois. Ça veut pas dire que le film va être très bien, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils savent vendre, quoi. Moi, j'aime bien voir Cate Blanchett trop enjetée. La bande-annonce est bien montée. Ça dure que 1 minute 50 et t'as vraiment envie de voir ce qui se passe, quoi.
La musique est mal choisie, mais.
Moi, j'ai beaucoup aimé la musique, du coup.
Tu devrais regarder
l'émission de Nikos Aliagas sur.
Bon nouveau design, là, cheveux coupés.
C'est la même musique.
Non, mais ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ça reprend, pour ceux qui connaissent les trucs Marvel, ça reprend la storyline de Hulk qui s'appelle Planète Hulk. Où, en gros, effectivement, Hulk devient une espèce de gladiateur qui, petit à petit, va emmener la révolte d'esclaves aliens sur leurs oppresseurs extraterrestres aussi. Mmh. Et la BD était pas mal et assez connue. C'est l'une des rares qui est connue de Hulk. Et j'ai l'impression qu'ils vont en prendre de ça aussi. Donc, à voir. Voilà, c'est tout. J'aime bien.
Est-ce qu'il y aura Natalie Portman?
Non, je crois pas. Je crois qu'effectivement, elle ne fera plus partie du MCU, il me semble. Genre, elle a plus du tout de contrat, en fait, sur le truc.
J'avais été très étonné, moi, de voir qu'une actrice comme Natalie Portman, j'aurais jamais imaginé qu'elle atterrit dans un film de super-héros à la base, quoi.
Ouais, mais au final, là, regarde, Gwyneth Paltrow...
Ouais, c'est vrai.
Y a qui... Enfin, je suis sûr, on pense même pas... Anthony Hopkins, il joue Odin dans Thor, justement. Tu vois?
Ouais, c'est vrai, mais... Natalie Portman, je la vois. Ouais, mais en même temps, tu m'iras, elle était dans les Star Wars, donc ça compte pas.
Elle a déjà fait de la franchise. Il faut qu'elle mange aussi, la pauvre.
Ouais, entre
des films avec Pablo Larraine, là, faire Jackie, là.
Rien à manger, quoi.
Ouais, c'est classe. Elle y va à perte, tu sais. Elle donne des semaines gratuites.
D'autres news, PJ?
Non.
Tu veux me parler de ta vie? Qu'est-ce que.
Non, mais Valérian, voilà, c'est tout.
Tant que ça. C'est quoi le film que t'attends le plus en 2017?
Je dirais Star Wars 8, mais ça a de fortes chances d'être mauvais.
Ah, c'est dans longtemps, là, par contre.
Ouais.
Toi, Jean-Yves ?
Pas mal d'attentes, notamment, je l'avais dit dans l'épisode en anglais, mais je vais le redire parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais, c'est malheureux pour eux. Mais, il y a un film que j'attends beaucoup, c'est le nouveau Ben Wheatley britannique qui s'appelle Free Fire, donc qui sort un espèce de huis clos gangsterisant à base de coups de fusil à pompe Looney Tunesque un peu, donc ça a l'air vraiment cool. Et en plus, c'était intéressant parce que j'ai entendu une interview de lui récemment et c'était très instructif pour moi parce que j'ai appris ce que c'était que l'utilité d'avoir Martin Scorsese en exécutif producteur de ton film. Et en fait, c'est super marrant parce que moi, j'avais toujours l'impression que quand tu as un grand nom en tant que genre, tu sais, Tarantino présente ou Scorsese présente, moi, j'ai toujours l'impression que les gars, ils sont allés boire des coups. Ouais. En fait, Ben Wheatley, il explique qu'il dit ben en fait, j'ai eu trop de chance parce que donc pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait moi je le connais pour Kill List, espèce de petit film un peu dark, un peu chelou mais qui m'avait bien plu. C'est des films assez conceptuels hein, d'ailleurs. Et Ben Wheatley explique que Martin Scorsese, il était dans une période où il regardait que des films anglais. Et Ben Wheatley, il avait entendu par un pote que Martin Scorsese avait adoré Kill List.
D'accord.
Et là, en fait, c'est pas genre, vas-y, je décroche mon tel, j'appelle Martin, c'est ça passe que par des managers d'eux. D'accord. Et genre, en gros, Ben Wheatley a reçu un call de la manager de Scorsese qui a dit, est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble?
C'est énorme, ça va.
Et en fait, Ben Wheatley dit, ce qui est génial, c'est que quand on me demande qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir comme exécutif producteur Martin Scorsese, il dit, bah, en fait, les gens se disent, mais en fait, non, il n'était pas vraiment sur le plateau, il n'a pas vraiment donné de thunes. C'est que voilà, il regarde le script, il révise le script, il donne des idées. Et surtout, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand tu vas lever des fonds pour ton film et que tu dis, j'ai Martin Scorsese, les portes s'ouvrent. Quoi. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'en gros, c'est ça, avoir un nom comme ça, c'est juste que ça t'aide à lever des fonds et faire ton film. Quoi.
Parce qu'après aussi, comme on a dit dans l'épisode en anglais, il y a Charles Tocoplay, Brie Larson, Armie Hammer, que des gens qui commencent à être assez bankable et donc cher en fait. Donc effectivement, fallait Cillian Murphy aussi, fallait de la thune quoi pour les,
voilà,
les amasser.
Fallait des noms pour dans le film, ouais. Prendre tout ça quoi. Et l'autre film que j'attends beaucoup, c'est un film qui cartonne outre-Atlantique et outre-Manche, c'est Get Out, espèce de thriller horrifique un peu qui il y a des critiques énormes, j'ai pas envie de trop m'emballer pour pas être déçu.
Mais je pense que tu sais que là il a
8,2 sur IMDb, je vois, c'est chaud.
Il a dépassé le Blair Witch, c'est-à-dire qu'en fait en termes de ce qu'il a rapporté par rapport à ce qu'il a coûté, c'est fait par un gars qui vient du monde comique, qui est Jordan Peele, qui fait partie du duo qui gagne Michael Peele et bref, d'un duo comique qui fait des sketchs à la base aux États-Unis et en fait le point commun et le truc là où tu vois qu'en fait ils pouvaient faire des films comme ça, c'est que même dans leurs sketchs c'était trop bien réalisé, c'est-à-dire qu'en fait c'était des mecs qui faisaient des sketchs de genre quoi, où il y avait des films d'action etc, où ils venaient chercher le gars qui s'était l'ermite à la Rambo etc, et en fait tout était super bien fait. Et tout ce qui se passait à l'intérieur, c'était comique. Et tu voyais donc le talent un peu de réalisateur de...
Peut-être que l'idée du film part de là, ça part d'une idée de sketch et on en fait un film, quoi.
Et effectivement, tout le monde leur disait, putain, c'est vrai que vous, ça se voit que vous aimez les films, en fait. Ça se voit que vous aimez les films de SF, les films d'horreur, vraiment, et que vous le traduisez dans ce que vous faites. Et donc, ouais, Get Out, ça fait genre un peu film, je sais pas... Attends, pour voir dans quelle catégorie le... Ouais, horror mystery. Donc, tu vois... Et d'ailleurs, on va probablement en faire un podcast en anglais.
Ça a l'air d'être de l'horreur sociale un peu, tu sais, ça a l'air de...
Ouais, gros sous-texte racial aux États-Unis.
Quoi. Ouais, par rapport à la famille aussi, j'ai l'impression qu'il y a un truc pas clair avec la belle famille. Enfin voilà, ça a l'air de surfer, de placer l'horreur sur le cadre de la famille, ça a l'air assez intéressant.
Ça a l'air pas mal, ouais. Bah écoutez, là, je pense qu'on va pouvoir passer au film d'aujourd'hui, qui va être Fast and Furious 8, qui s'appelle, en fait, en anglais, The Fate of the Furious, ok? Qui est réalisé par un mec qui s'appelle F. Gary Gray, qui est un gars qui a réalisé Straight Outta Compton, quand même. Donc, c'est un bon réalisateur, en fait.
C'était bien, d'ailleurs, ce film.
Ouais. Mais en général, d'ailleurs, par exemple, Justin Lin ou James Wan, qui avait fait les autres Fast and Furious, c'est quand même de plutôt bons réalisateurs, en fait. Et du coup, voilà, avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, et en fait, 1000 autres personnes,
sorti le 12 avril 2017, donc hier. Je vais vous lire un petit peu le synopsis assez rapidement. Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l'équipe a été disculpé, la bande de Globetrotters retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu'il n'avait jamais rencontrées jusqu'alors. Petit clip.
Tu sais ce que j'aime chez toi, Dom. Tu es un vrai hors-la-loi. Mais ta famille...
Joli travail, mon frère. Une fois à la base, je paye ma tournée.
Elle va devoir affronter le seul truc qu'elle ne peut pas vaincre. Toi. Tu aurais imaginé trahir ta famille comme tu l'as fait aujourd'hui?
Dominique Toretto s'est retourné contre nous.
Tiens, tiens, regardez qui est là.
Je sais pas pourquoi il le fait, mais ça peut pas être Dom.
Elle est l'incarnation même du terrorisme high-tech. Et maintenant, elle collabore avec votre homme.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Fast and Furious 8? Qui veut commencer à parler?
Écoute, moi, je suis assez mitigé parce que déjà j'ai été pris un petit peu par surprise parce que déjà accueilli par du Dolby Atmos dans la salle, donc des bruits de moteur très agréables à l'oreille, faut le dire.
Des V8
très agréables à l'oreille. Donc en fait j'ai été scié par la première scène de poursuite en fait parce qu'en gros l'idée c'est que le protagoniste donc Dom Toretto, il habite à ils se sont expatriés un peu à Cuba, donc ils sont un petit peu en mode petite chemise manche courte, petit mojito.
Mais c'est pour leur lune de miel, non?
Ouais, on l'apprend, mais qu'en lisant le synopsis. C'est vrai que...
Sinon, on sait pas trop pourquoi ils sont là. On sait pas.
De toute façon, ils sont pelletés de thunes.
Ouais.
Du coup, on se dit, ils peuvent être n'importe où. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est quand même... Ouais, vas-y.
Et donc, évidemment, c'est le trope, le schéma classique Fast and Furious. Ça commence de suite par un petit rodéo urbain, petite mise à l'épreuve où Dom Toretto il va devoir faire la course avec un gars.
Il faut montrer ses balls dès le début du film, quoi. Tu peux pas te permettre de pas montrer ta virilité
avec un cubain. Donc moi, j'ai cette première scène, je la trouve très très bien, enfin je suis très surpris, je la trouve super bien réalisée en fait. Je me sens vraiment la course poursuite en elle-même, je me sens bien devant, quoi. Après, c'est très cliché parce qu'évidemment, donc peut-être qu'il la gagne, peut-être qu'il la gagne pas. On ne sait pas si on va spoiler, mais en gros, Dom Toretto, quand il sort de sa voiture, on est tout de suite dans une ambiance over the top. C'est-à-dire qu'il est, enlacé par des enfants. Tu sais, il a deux doigts de jeter des cadeaux à la population. Enfin, c'est assez.
T'as l'impression qu'il vient de libérer Cuba, alors qu'il vient de faire une course poursuite avec des gars en mettant en danger la vie de tout le monde. Il a renversé 400 caddies de gens qui étaient en train de faire leur marche.
C'est trop ça.
À quel degré il faut le prendre en fait? Je veux dire, c'est.
Mais c'est ça l'idée, c'est que moi, donc du coup, voilà, cette scène, je la trouve très bien. Après, je trouve que il y a un parti pris qui n'est pas vraiment réel, c'est qu'en fait, au début, les transitions sont un petit peu brutales.
En mode, si tu veux,
on va à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un retour sur le passé, on dit bon, on va arrêter les scènes de dialogue, on enchaîne sans trop de raison les scènes d'action, et finalement, ça a un parti pris presque un peu à la Running Scared où c'est un petit peu over the top, et j'étais un peu pris par ça. Et sur la longueur, en fait, je trouve que le film est trop long sur la fin, c'est-à-dire que y a toujours cette maladie qu'il y a d'avoir des scènes interminables à la fin. Il y a certaines scènes de poursuite d'action qui sont interminables. Donc sur le tout, je le trouve long, le film est assez inégal. Donc c'est pour un 8, enfin tu me diras, pour un 8 ça reste très louable, hein, en même temps c'est un 8e d'une franchise. Je suis assez partagé, mais c'est pas du grand cinéma, quoi, on va pas se mentir. C'est si t'aimes les grosses bagnoles, t'en auras pour ton argent, mais enfin c'est au-delà de ça. Un gars qui est activiste pour anti-gasoil, il va voir ce film, il est dégoûté, quoi, je crois.
Mais alors je sais pas si t'en as pour ton argent, si t'aimes les grosses bagnoles, parce qu'au final on voit pas tant de voitures que ça, hein. C'est très secondaire, les voitures.
Alors, okay.
Mais c'est moi, pas je plus mal.
Que,
mais...
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de voitures que dans les deux derniers, par exemple, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, en fait, de Fast and Furious, c'est que depuis le 5, les mecs, ils ont dit on arrête de faire genre on a quelque chose à dire sur le monde de la course. Et à partir de maintenant, on va mettre The Rock, on va mettre des espèces de coffres-forts qui déboulent dans les rues de Rio.
C'est ça.
On va mettre des jets, on va mettre des courses-poursuites dans des runways d'aéroports qui vont finir dans des avions. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce film, il y a une scène qui était le climax d'un film du 5, je crois, ou du 6. Tu sais, à un moment, à la fin du 5 ou du 6, ça se finissait où justement les voitures rentraient dans un avion.
Bien sûr, ouais.
Et maintenant, on a ça en milieu du film, ouais. En mode normal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours dans la démesure. Il faut qu'on explose encore plus de trucs que dans le dernier. Et effectivement, comme tu disais, genre, ils ont arrêté de faire trop de dialogue, même si ce qu'ils ont gardé, c'est de la merde.
C'est ça.
Mais c'est de la merde qui te fait sourire, quoi. C'est-à-dire quand t'as Vin Diesel qui parle aux Cubains en anglais, déjà, tu sais pas pourquoi, alors que la scène juste d'avant, il parle en espagnol et tout ça, et ça parle de respect, de famille, de mes couilles sur la commode et tout. Tu fais, t'es obligé de rigoler, quoi.
La famille, c'est un concept central dans ce film, j'ai l'impression.
Ça n'a pas family. C'est tellement le truc de... Et moi, ça me fait rire. Et franchement, ce film... Après, je suis d'accord. Moi, j'en ai marre des scènes d'action qui te présentent la même chose, mais pendant 10 minutes, quoi.
Ouais, c'est chiant.
Que quand t'as le même plan répété 3 fois, ça suffit.
On pourra peut-être en parler dans la section spoiler,
ouais,
d'ailleurs.
On va en parler, mais le truc, c'est que justement, dans une même scène d'action qui est trop longue, il y a des pépites. Il y a des moments où c'est vraiment cool, tu vois. Il y a des choses qui se passent où c'est cool, mais en fait, il fallait juste garder ça et couper tous les trucs redondants et tu pouvais faire 20 minutes, 25 minutes de moins pour le film en entier et avoir quelque chose de... Cela dit, moi, j'ai passé un très bon moment et j'ai été surpris des scènes de dialogue entre Charlize Theron et Vin Diesel que j'ai trouvé plutôt réussies, en fait. Et le personnage de Charlize Theron, j'ai plutôt bien aimé. Par rapport à d'autres films où, genre, c'était totalement incohérent, j'ai rigolé, j'ai fait des pfff, n'importe quoi, j'ai applaudi quand il y avait un rock... Moi, ce film, il me faut un spin-off de Fast and Furious qui est avec The Rock, Kurt Russell et Jason Statham. Et c'est tout, quoi. Et je m'achète que ça en Blu-ray, je brûle tous les autres.
En fait, c'est marrant parce que c'est assez filmant décevant parce que moi, je suis toujours déçu par les scènes trop longues et mal faites, mais à côté de ça, t'as des scènes incroyables avec The Rock qui est en mode surstéroïdé, surexcité, où du coup, il va s'énerver, il va genre arracher un banc pierre dans sa cellule prison, il va faire des pompes avec, tu sais, genre, ça fait 200 kilos le truc, mais il a pas peur, tu vois. Tu vas voir des scènes où t'as The Rock, ils sont à 200 à l'heure sur un lac glacé, il dévie des torpilles qui sont jetées d'un sous-marin, tu vois, donc il y a quand même ce degré d'over the top qui est quand même, pour moi, assez euphorisant, mais à côté de ça, il y a des moments où c'est interminable, quoi, des blagues qui tombent à l'eau, des scènes...
Il y a énormément de blagues qui tombent à l'eau,
ouais,
quand
mais
même.
Trop.
Mais les tout Tyrese Gibson,
toutes les blagues avec Tyrese Gibson tombent totalement à l'eau.
En fait, et c'est malheureux parce que moi, j'ai l'impression, c'est ce qu'on disait un peu en sortant le truc, c'est que Tyrese Gibson et Ludacris, ils leur ont donné les blagues à faire, les blagues du hood à faire, tu vois. En gros, eux, c'est les tokens noirs américains du quartier pour faire genre, on va faire des blagues auxquelles les noirs vont rire, tu vois. Et le fait qu'ils puissent penser ça et quand même donner des dialogues de merde, bah, je trouve que c'est honteux déjà. Et c'est de la merde parce que c'est même pas drôle. Voilà.
Et du coup, PJ, toi, en étant amateur de tuning, t'en as pas eu pour ça.
Non, mais alors, déjà, parce que le film pose quand même la question d'entrée des Cubains.
Il pose la question
d'une
je
image.
Je suis pas sûr qu'il pose des questions.
Non, mais quelle image est véhiculée pour les hommes et pour les femmes? Quelle image de la masculinité? Quelle image de la féminité? Dès le début. Parce qu'en fait, à Cuba, il y a que des jeunes filles en tenue légère qui sont toutes.
On s'est marré quand on a vu la meuf qui inaugurait la course là. Elle arrive avec une jupe mi-fesse. Mais mi-fesse. Tu te souviens?
Oui, tout à fait. Et puis c'est stéréotypé. Il y a pas de gens ordinaires dans la foule, en fait. C'est soit des gars ultra musclés, soit des nanas ultra gaulées. Il y a pas de gens normaux, en fait. C'est tout est over the top.
Tu dois être comme ça, en fait.
Et les gens, ils viennent voir quoi? Ils viennent voir deux voitures démarrer, en fait, dans une rue, qui vont mettre en danger des dizaines de Cubains, en fait, qui sont en train de faire leur vie.
D'ailleurs, il y a des ouvreurs en moto qui coupent la circulation.
C'est ça, ils coupent la circulation et c'est tout à fait légitime de couper la circulation pour laisser passer un rodéo. En fait, c'est aussi ça, ce sont des héros, en fait, à la moralité très douteuse. On sait pas trop pour qui ils travaillent un peu pour leur compte, pour le gouvernement, mais au final, on sait pas trop s'ils ont raison. Enfin, on peut pas vraiment dire que ce sont de véritables héros, en fait.
Même la moralité du truc, c'est souvent le gouvernement, en fait, genre, ils aident le gouvernement, mais ils marquent un point d'honneur à dire que même les mecs du gouvernement font pas vraiment partie du gouvernement, tu sais. Qu'en gros, non, mais s'il faut appeler le gouvernement, il y aura trop de bureaucratie, donc vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire. Ça se finit toujours à base de t'inquiète pas, on est en mode Black Ops tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, la démocratie, ça ne sert à rien. Genre dans ce film, c'est prends tes balls et prends ton gun et fais ta loi toi-même et ça ira mieux.
Et c'est marrant d'ailleurs parce que le côté Black Ops, ça, c'est aussi une facilité scénaristique parce que ça excuse tout en fait.
Mais oui.
À chaque fois qu'il y a une incohérence, ils disent vas-y, c'est Black Ops, c'est régalé.
C'est Black Ops pour créer des problèmes de trahison, c'est Black Ops pour enlever les problèmes de trahison, c'est Black Ops pour pouvoir faire des trucs dans des états souverains, pour faire genre, on vole des trucs à des Allemands, pour faire genre, c'est n'importe quoi.
Et puis, il faut quand même questionner le personnage de The Rock, qui est présenté comme a priori un flic, si j'ai bien compris, qui est très intègre, qui est complètement proof à la corruption, quoi. Et ce type se retrouve donc du coup très vite en tôle. Et pour sortir de tôle, il n'hésite pas à tabasser ses collègues qui sont flics comme lui, ou gardiens de prison. Je veux dire, c'est ses collègues, quoi.
C'est pas pour sortir de prison, c'est pour rattraper. Et là, on spoil un peu.
C'est pour rattraper un méchant qui n'a rien fait, qui est en prison pour ce qu'il a fait avant. Mais là, il n'a rien fait de grave, à part le provoquer.
Bah si, il essaye de sortir.
Ah ouais.
C'est vrai,
mais c'est pas le seul. Je veux dire, tous les autres détenus essayent de sortir.
Jason Statham, c'est une putain de pépite dans ce film.
Il est génial
dans ce film, franchement.
You're all might.
Dominic Toretto. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus en termes de non-spoiler.
Il y a plein de choses à dire.
En détaillant ce qui se passe dans le film et en poutrant tout ce qui se passe.
On pourrait dire déjà que The Rock entraîne une équipe de soccer féminine de jeunes filles.
Spoil,
c'est pas du spoil, c'est au début.
Non, mais moi ça me serait
spoilé. D'accord. AK, ça c'est drôle.
Vas-y, tu spoil quoi. Moi j'ai découvert ça, j'étais trop heureux.
Ouais, c'est vrai.
On va prendre vos miams, non?
On va prendre les miams.
Il va pas y en avoir beaucoup.
Non, mais
moi, je vais partir sur un... Parce que pour faire une moyenne, je vais partir sur un 2,5 miam rehaussé un 3 pour le Dolby Atmos.
Donc 3 miams.
3 miams.
Grâce au Latmos. C'est vrai qu'il avait des sons extrêmement bien...
Ça pose une question intéressante, d'ailleurs, sur les conditions dans lesquelles tu vois ce film. Parce que tu vois ce film...
Chez toi, sur une télé, tu
te casses au bout d'une heure, quoi. Mais je pense. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, là. Il y a une espèce d'immersion par le son qui est plutôt réussie, je trouve.
Enfin non, plutôt si tu regardes ça chez toi, seul, sur une télé...
Sans son.
Tu arrêtes avant la fin.
Ouais.
Par contre, entre potes, et encore plus entre potes au cinéma... Tu te marres.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a un effet.
Il y a un effet buddies.
Il y a un effet buddies, mais même il y a un effet forain dans toute la salle.
Il y a un effet forain, ouais.
Parce que dans toute la salle, on entendait des rires de derrière pour des scènes, et nous, du coup, ça nous faisait rire. Ouais. On riait pour des scènes, et du coup, il y a des gens à côté qui riaient parce que c'était n'importe quoi.
Mais on riait du film, et pas avec le film.
Et oui, mais c'est. Je sais pas à quel degré.
Parce
que quand effectivement t'as The Rock qui chope des torpilles de sous-marin, ils savent que c'est pas vrai, donc quelque part ils déconnent un peu aussi, tu vois.
Non mais c'est vrai, t'as raison. Et puis en plus les rires décalés, c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens différents qui vont voir ce film, et je pense qu'avec PJ on est un peu gênés parce qu'on est, nous on est un peu des Jackie progressistes. On est des Tamaro modérés en fait. Mais du coup, t'es quand même, en fait, moi j'ai du mal à être assimilé aux vrais Tamaro qui sont dans la salle aussi et qui rigolent aux blagues de merde, du coup, auxquelles on rigole pas, donc ça c'est.
Parce qu'en fait, toi, t'as ta petit torchon avec de la suie pour ta moto et du coup, t'as peur qu'on te dise un Jaco.
Un Jaco du sud-ouest en plus, c'est encore pire, tu sais, c'est double fromage quoi, bam. Double cheese, brah.
Ben, je vais mettre 0,75 miam.
Oh,
je vais mettre 0,75 miam pour plusieurs raisons. Alors, le 0,75 pour les scènes d'action, il y avait des scènes d'action sympas où on prend des torpilles de sous-marins en main nue, etc. Après, j'adhère pas au personnage. À aucun moment, je me sens concerné par ce qui leur arrive. À aucun moment, le scénario m'intéresse. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec.
Je suis pas sûr que ce soit l'objectif.
Ouais, c'est pas l'objectif.
Mais en fait,
mais...
c'est ça. Moi, je suis. Alors, je vais peut-être rebaisser ma note parce que c'est vrai que moi, du coup, si je mets 2,5, genre 3, c'est parce que je le prends pas au sérieux, quoi.
Mais oui, mais moi
si,
non plus.
Si je le prends comme un produit au sérieux, je m'assieds, je me dis, ok, on y va. C'est clair, je mets 1/5. Quoi.
Ah, mais bien sûr. Clairement. Mais je pense pas. Enfin, franchement, clairement, c'est pas pour rien que à partir du 5, ça a commencé à gagner des 700 millions de dollars.
Ouais.
C'est parce que c'est du nimp. Et personne ne prend ça au sérieux.
Après, c'est ça la question, qui va le prendre au sérieux, quoi.
Quand dans le 6, il y a des gens qui arrivent, tu sais, d'un pont à l'autre et qui se rejoignent en plein milieu en sautant et qui défient la gravité, etc. Je pense que personne ne se dit c'est possible, quoi. Et les gens qui se disent c'est possible, c'est des gens qui seraient de toute façon partis voir le film. Et l'auraient aimé, tu vois ce que je veux dire. Donc, quelque part, je pense que depuis le 5, c'est devenu... c'est devenu un exercice de style d'action, en fait. Juste pour dire, on va...
Est-ce que je peux réviser ma note? Je vais rester sur un 2,5. Solide 2,5, voilà. Middle 2,5.
Moi, je me fais pas du tout avoir. Moi, je vais mettre 4 miams parce que j'ai passé un excellent moment. Mais vraiment, mais je te jure, je me suis marré. Non, pour le coup, pour une fois, et c'est pour ça aussi que je mets 4 par rapport à, genre, pour moi, je le mets un peu au rang du 5, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et le 6 et le 7, c'était un cran au-dessous parce que, c'est-à-dire, même t'as beau excuser plein de trucs, c'était vraiment incohérent. Genre, à un moment dans le 6, comme je t'avais dit, genre, à un moment, le mec décide de partir en prison pour avoir des informations, qu'au final, les gars ont déjà à l'extérieur, du coup il est parti en prison pour rien, du coup t'es là, tu fais mais
là, il se passe plus ou moins la même chose quand il est en prison. Et ça dure
15 ans. Mais non, parce que à la limite, ça, dans ça, c'est le fait qu'il se soit fait trahir par quelqu'un. Oui, l'autre, d'accord. Il choisit d'aller en prison.
Mais la façon dans laquelle est orchestrée l'évasion, c'est un peu douteux, quoi. Tu sais, c'est genre, ils sont voués à s'échapper de toute façon, il n'y a pas vraiment
d'intérêt. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ouais. Non, mais le truc, c'est que, après, au moins, tu sais que c'est à cause de quelqu'un à l'extérieur. Ouais, ouais. Mais dans l'autre cas, c'est genre, il se passe des choses où les personnages veulent faire des choses. Qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as aucun mobile en tant que personnage de vouloir faire telle ou telle chose, tu vois. Ouais, et celui-là, pour le coup, et c'est pour ça, j'étais assez... Et puis, j'ai bien aimé la méchante. J'ai bien aimé Charlize Theron. Elle était cool. Elle était belle. Et elle vendait son perso, quoi.
Alors, ouais. Quelles étaient ses motivations réelles en tant que
je pense
que
c'était de se créer un...
personnage.
On va parler en spoiler.
En tant que personnage.
Spoiler, alors, juste avant, moi, je voudrais juste dire un truc sur ça. C'est, moi, je suis assez étonné sur une franchise... C'est comment a évolué cette franchise? Parce que moi, je suis étonné de voir une actrice du calibre de Charlize Theron dans un film comme ça, en fait.
Mais je pense que c'est de la déconne avec
c'est pour ça.
Kurt Russell.
C'est
Kurt Russell, il y est en mode...
C'est pour
mode
ça qu'il y a un côté déconne, en fait. Ouais, je suis assez
mais
d'accord.
Il est
à ce moment-là, pourquoi on n'assume pas le côté déconne jusqu'au bout? Parce qu'à côté de ça, il y a des scènes qui se prennent totalement au sérieux sur la famille, etc. Et je ne comprends pas.
Et moi, je suis d'accord. Ces scènes-là, je les déteste, mais j'aime les détester aussi. Parce que j'aime me foutre de la gueule des gars qui voient ça et qui se disent « Putain, c'est vrai, hein ?»
Parce que de toute façon,
il y a que ça qui compte, c'est en famille.
Dom Toretto, c'est un mâle alpha bon chrétien.
Mais
quoi, c'est ça.
Mais c'est ça. Et moi, j'aime regarder ces scènes et vouloir gifler quelqu'un. En me disant, si tu penses ça, tu mérites la mort.
D'ailleurs, il y a quelque chose avec sa croix,
arrête de spoiler.
Mais on est en spoiler,
non,
là.
On est pas du tout en spoiler.
Il a toujours eu sa grosse croix autour du cou.
Oui, il a toujours eu. Mais bon, attends, j'ai donné mes miams, tout le monde a donné ses miams.
On est ok.
Ça fait une moyenne de...
T'as donné combien de
0,75
de mettre,
ça fait 2, hein, à peu près 2,5. On a 0,75, 2,5, 4. On va dire du 2,20, comme ça.
Ouais, un truc comme ça. Donc du
on est presque à la moyenne.
C'est déjà trop.
2,5. Mais non, il faut pas... Mais après, je comprends que toi, arrivé là... sans avoir vu les 5, 6, 7...
C'est vrai, c'est étonnant.
C'est normal que ça te choque. Parce que moi... Effectivement, c'est quelque chose que je déteste et que j'ai apprécié, que j'ai appris à apprécier, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais arriver de nulle part voir ça, j'ai tellement envie de te montrer Triple X. Parce que Triple X, c'est que les scènes de famille, tu vois. c'est que les scènes de virilité et des trucs comme ça. Et avec de la mauvaise action. Du coup, c'est que tu as envie de, d'étrangler quelqu'un pendant tout le truc. T'as envie de prendre une boule anti-stress. Parce que c'est pas possible. Bon, ok, on passe. Attends, on passe pas en spoiler. On va passer au film qu'on a vu dernièrement. Ensuite, on reviendra. On va détailler la section spoiler. Est-ce que vous avez des films que vous avez vus dernièrement dont vous voulez parler particulièrement? Oh, ok, vas-y.
Alors, j'ai vu Suffragette de 2015 avec Karen Mulligan et je sais plus qui est le réalisateur. Et c'était un bon film historique sur les suffragettes.
Ça parle de quoi? Oui, dans quel pays?
Ça se passe à Londres en 1915, quelque chose comme ça.
Ok. Il y a toujours un petit film pour Karen Mulligan.
Et puis, c'est le film maïf un petit peu, puisqu'on est des enseignants.
Est-ce que c'est le film à Oscar maïf? C'est pas le film à Oscar?
Est-ce que c'est le film à Oscar? Je sais pas.
Sorti en 2015.
Ah, mais c'est une réalisatrice, c'est une réalisatrice.
Elle s'est chiée, de toute façon. Enfin, elle s'est chiée, puisque si c'était en 2015, on l'a pas vu arriver aux Oscars, non? Donc, quoique si, est-ce qu'elle a pas été nominée d'ailleurs? Karen Mulligan en 2015 pour ce rôle. je vois ça, ouais. Et donc, vas-y, parle-nous de ça. Hein.
Non, c'est le combat des suffragettes pour obtenir le droit de vote. Donc, il y a la question de la nature de l'acte. Enfin, jusqu'où peut aller la violence de l'acte militant, quoi. Ouais. Où est-ce qu'on s'arrête
C'est intéressant, ça.
C'était plutôt intéressant. Puis, les conditions de vie, les conditions de travail pour les femmes à ce moment-là, puisque le personnage principal travaille dans une sorte de blanchisserie, je crois.
D'accord.
Et tout les retentissements que pouvait avoir la vie militante sur la famille, enfin sur la sphère privée. Donc c'était vraiment.
Ah, c'est pas mal.
C'était vraiment
en fait,
un bon film, intéressant au niveau historique. Alors après, j'ai pas cherché. Pour voir si ça collait vraiment à la réalité de historique ou pas, mais voilà, c'était vraiment bien. Et ensuite, j'ai vu Your Name, donc qui est un
l'anime,
un film d'animation japonais qui était super chouette, une histoire d'amour un peu fantastique, voilà.
Non mais vas-y, explique-nous qu'est-ce que t'as aimé dedans.
Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé la musique, j'ai aimé la qualité du dessin, j'ai aimé le scénario qui était original. Très 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 bon film. Voilà.
Merci. Nous, je pense qu'on le fait tellement proche de notre dernier truc, je sais pas si on a vu quelque chose.
Moi, j'ai vu des nouveautés VOD Blu-ray de la semaine, là.
Ah, pour les pics du mois, tu veux dire?
Ouais. Donc, j'ai vu Papa ou Maman 2 avec Marina Foïs et Laurent Lafitte.
Mais tu as vu le film?
Bien sûr.
Ouais. Ah, ok, d'accord.
Avec Marina Foïs et Laurent Lafitte de la Comédie Française. Et en fait, c'était pas nul en fait. Hein. C'était moi j'avais trouvé le 1 plutôt léger, plutôt marrant.
Pareil, ouais.
Et le 2 en fait c'est assez drôle parce que il est inégal, mais la première heure c'est vraiment très drôle parce qu'il y a une espèce de truc qui se met en place assez loufoque entre les personnages. En fait, le pitch du 2 ça commence. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'un, l'idée c'est le créneau enfant de divorcé, donc en gros les parents se séparent et puis en gros les parents font tout pour que les enfants les détestent et aillent vivre chez l'autre en fait, en gros.
Ouais.
Et là dans le 2 il se trouve que bon, c'est assez surréaliste parce qu'ils habitent les deux l'un en face de l'autre, donc il y a papa qui habite en face de chez maman et les enfants passent d'une maison à l'autre. Et en fait, ce qui est marrant c'est que Laurent Lafitte de la Comédie Française il est assez content parce que sa femme, son ex-femme accepte assez bien qu'il ait une nouvelle copine. Mais bizarrement, quand sa femme va lui présenter sa copine son nouveau mec à elle, là, ça va coincer parce que du coup, ils se sont un petit peu gênés. Et du coup, c'est assez drôle parce que le profil du mec concurrent, c'est un espèce de gars, tu sais, qui avait sa boîte, mais qui l'a vendu, qui a du blé, qui est un peu hipster, qui fait du shiatsu, qui fait du yoga, tu vois. Donc, c'est toujours, ça met toujours en danger par rapport à ça. Et alors que lui, il représente plus un mec genre le gars... cadre sup, costard 3 pièces, pas trop mise à mal par ce genre de gain, un peu bien-être, tu vois. Et en fait, c'était plutôt drôle, on a vachement rigolé, j'ai regardé ça avec Sophie. Je conseille, alors c'est le petit film de couple sympa, c'est quand même un film de niche dans le film de couple, parce que ça correspond pas trop tout le temps si tu veux te faire ce film avec ta copine, si c'est que le troisième ou quatrième date, on conseille pas trop parce que ça parle de mariage et d'enfants, donc ça met un peu mal à l'aise, donc c'est un peu chiant. Et c'est plus voilà, c'est le petit film de la petite comédie légère du dimanche soir. C'était pas trop mal, c'était pas trop mal. Et ce qui était marrant, ça le met en, moi je le mets bien en parallèle avec des Dom Toretto ou des Paul Walker dans l'image que. Là, tu sais, parce que il y a longtemps eu ce truc du où si ta femme ou ta copine partait, c'était toujours pour là avec le surfeur blanc, tu sais.
Ouais.
Alors que maintenant, ça a évolué. J'ai remarqué que c'est souvent un gars qui fait du yoga et qui est végétarien. Tu sais, c'est devenu une concurrence un petit peu dangereuse.
Ouais.
Tu sais, voilà, il y a le bien-être, ça devient, c'est l'ennemi maintenant, tu vois. C'est genre le shiatsu, les massages, les pierres chaudes.
Ouais, le mec qui est vegan, voilà. C'est un shipster.
Et là, il y a ce schéma-là et ouais. C'est assez marrant.
C'est marrant. C'est là que tu vois... que quand les stéréotypes changent de ton rival d'un rival masculin dans un film, c'est là que tu vois que enfin, tu peux voir la société comme ça, ouais. Comment elle évolue avec.
Mais j'ai trouvé ça.
D'ailleurs, il y avait un truc assez drôle dans la série Portlandia. Je sais pas si tu as la série à sketch Portlandia,
non.
Qui est assez cool où justement c'était un peu genre le gang des geeks qui s'était monté un peu contre le gang des surfeurs blonds, mais qui petit à petit vous voyez qu'en fait les surfeurs blonds ils étaient en mode vegan mais qui lisaient des bouquins de self-help et d'amélioration personnelle, etc. Ils me disaient mais depuis quand vous faites du sport et vous lisez, tu sais. Je crois qu'il y avait tout ce truc de maintenant le rival peut être aussi intelligent tout en étant bien dans son corps
et dans sa tête.
Et l'autre nouveauté Blu-ray, mais là c'était pas cette semaine, je crois, je sais pas si c'était la semaine dernière ou je sais rien, c'est Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, le
titre
de Tim Burton avec Eva Green, et qui est un espèce de X-Men Kids mais façon Tim Burton un peu, quoi, puisque le pitch c'est que ce sont des... Ça se situe dans les années 40, j'imagine, et c'est sur une petite île au large du Royaume-Uni où c'est une espèce de maison pour enfants un peu bizarre. Et ça a un enrobage assez dark, en fait. Donc, je sais pas si c'est un film pour les enfants, parce que les enfants sont très bizarres, en fait. Ils ont des particularités, ils peuvent avoir des super pouvoirs, ou ils peuvent être très, très laids, un peu genre Elephant Man, tu vois. C'était pas mal, mais tu vois, on en parlait l'autre jour par rapport au... fait de si Tim Burton était un sell-out ou pas. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, ce film.
Non,
j'avais toujours pas vu.
C'est marrant parce que j'ai l'impression maintenant que Tim Burton, ça devient intéressant que pour un gars qui n'a jamais vu de Tim Burton, quoi. C'est-à-dire que c'est très prévisible dans le visuel, dans il a franchisé son décor, quoi.
Ouais.
Tu vois. Et ça devient même téléphoné dans les transitions, quoi. Tu vois, c'est... Ouais.
Il devenait une caricature de lui-même, en fait.
C'est l'autre, c'est l'étrange, c'est le côté difforme et façon Tim Burtonesque, mais c'est... J'ai l'impression de l'avoir déjà vu 1000 fois, ce film, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça que je conseille ce film à des gens qui ne connaissent pas l'univers de Tim Burton, mais si tu le connais déjà bien, on s'ennuie un peu, quoi.
Mais y a-t-il des gens qui ne connaissent pas l'univers de Tim Burton?
Ouais, c'est ça, ouais.
Bah, les jeux... Enfin, ouais... Mais bon, t'as envie de dire, commence pas par ça, quoi. Commence par un vrai bon film de Tim Burton, tu vois. Si tu dois conseiller l'univers de Tim Burton à quelqu'un, forcément.
Ouais.
Mais c'est triste un peu les réalisateurs où au final tu réalises qu'il n'y a plus de renouveau chez eux. C'est-à-dire qu'en fait ils refont la même chose et pire, leur scénario baisse de qualité de film en film, en fait.
Mais du coup tu conseillerais lequel ?
De Tim Burton ?
En récent, je dirais Charlie la Chocolate Factory, c'est quand même pas mal.
Ouais, moi je dirais Big Fish, c'est pas mal.
Big Fish, c'est pas mal aussi, ouais.
Big Fish, parce que pour moi, c'est probablement mon film préféré, je pense, de Tim Burton.
Mais ou le début, hein, Ed Wood, Edouard Romain d'Argent, la période, le début, quoi, vraiment, où il a défini son image. Mais maintenant,
il faudrait que je revoie ça, parce que est-ce que ça passe ça aujourd'hui? Un Edouard Romain d'Argent, est-ce que je sais même plus si c'est plaisant à regarder, ou tu vois.
Ben, en fait, c'est très bizarre, Tim Burton.
J'en ai pas revu depuis 10 ans.
Tim Burton, il était dessinateur sur Rox et Rookie de Walt Disney, et c'est bizarrement, c'est un des rares Walt Disney qui fait chialer les gosses, et du coup, il a dit, t'es bien gentil, mais tu vas dégager parce que les enfants pleurent. Donc, il a un petit côté où il a été un petit peu renié par le côté grand studio, grosse production, et puis finalement, maintenant, il y revient.
Ouais.
Et donc, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est ce côté franchise du style. À tel point que vraiment, on dirait que sur les décors, des gens passent avec des, ils cochent des cases, quoi. C'est bon, c'est Tim Burton, ils cochent des cases.
Il y a des rideaux déchirés, il y a des trucs, donc c'est bon.
C'est très artificiel, en fait. C'est faussement dark, quoi. C'est très, très bizarre.
C'est faussement dark parce qu'il y a plus, je vais toujours revenir à ça, mais il y a plus d'originalité face à quelque chose qui a été maintenant intégré. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on pourrait très bien voir un Disney sans Tim Burton, mais Tim Burtonesque. Tu
oui,
vois
bien sûr.
Alors qu'effectivement, comme tu disais, ils l'ont remis au début. Et du coup, si ton style qui vraiment était étrange à une époque, maintenant, pourrait être une frange certes, mais de la normalité, bah en fait, t'as plus rien à apporter, tu vois, en
c'est
termes
vrai.
De choses. Donc, je sais pas, après, il y a des, c'est peut-être un, je sais pas, j'allais dire un passage à vide aussi, parce que j'ai l'impression, moi, c'est surtout que il y a plus les scénars intéressants aussi, quoi.
Mais parce que tu vois, c'est ça, la preuve,
Dark
c'est,
Shadows,
la preuve étant que toi, par exemple, il y a quelques années, tu t'aurais peut-être été voir un Tim Burton, mais là, tu vois l'affiche, t'as l'impression d'avoir déjà vu le film.
Exactement.
Quoi. Et t'y vas pas.
Exactement. Alors, pourtant, genre, des gosses qui ont des super pouvoirs, genre,
ouais.
Typiquement, c'est genre, ça m'appelle normalement, tu vois.
Mm.
Et je vois Eva Green faire du Eva Green avec un maquillage, avec un rouge à lèvres un peu dark bordeaux, et ça y est, j'ai vu le film, quoi. J'ai compris le film. Tout ça pour me dire, probablement, tu sais, il faut accepter sa différence et que toi-même, en tant que hobbit difforme, tu as des pouvoirs et que tu vas améliorer la vie de...
Mmh.
Voilà, ça y est, je l'ai vu, c'est terminé. J'ai pas besoin de... Ouais, je sais pas. Pauvre Tim Burton. Bon, c'est fini, c'est tout ce que vous avez vu. Moi, j'ai rien à dire. À la limite, pour surfer sur les Blu-ray Epic, je dirais qu'en avril 2017, là, je recommanderais deux trucs à acheter. C'est bien entendu Star Wars Rogue One, même si c'est pas de la 4K, c'est juste un Blu-ray.
C'est
cool. Ça sort le 21 avril et le 25, il y a Manchester by the Sea. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir. C'était dans quasiment tous les top 10
ouais.
de l'épisode top 10 de 2016. Donc vraiment, il faut
je l'avais bien en numéro 1 en plus.
Ouais, donc voilà. En moins en 2.
Et
moi j'avais mis 33, j'avais mis
numéro 1 ou 2, je crois. Il avait mis très
haut. Ouais, il était assez haut de toute manière. Ouais.
C'est à ne pas rater, c'est un petit chef-d'œuvre.
Ouais. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes. Okay, on peut passer à Fast and Furious spoilers.
Alors j'aimerais bien spoilers. Commencer par le. L'idée que donc Dominic Toretto devient Rogue, en fait, il retourne sa veste, mais c'est parce qu'il a pas le choix et à aucun moment on a de doute sur ça et du coup ça c'est y a aucun intérêt parce qu'on sait qu'il est Rogue,
ouais.
Mais pas par conviction, il est Rogue parce qu'il est forcé et
après je pense que là clairement le truc était mis sur le mystère de qu'est-ce que Charlize Theron pouvait bien tenir sur lui. Pour le rendre Rogue, parce qu'en fait, je suis d'accord, au bout de 7 films, tu sais que tu peux pas rendre ce gars Rogue, quoi, de nulle part.
Et justement, c'est ça qui aurait été intéressant, c'est de réussir à vraiment le rendre Rogue.
Ça aurait voulu dire écrire un scénario.
C'est ça, tout à fait. Parce que, du coup, on se doute bien que c'est un proche qui a été capturé, et donc il n'y a aucune véritable surprise. Et on sait très bien à l'avance à quel moment il va revenir dans le droit chemin, à quel moment il va aider ses camarades. Donc c'est extrêmement prévisible.
Spoiler,
en fait.
Il fait ça parce qu'ils ont capturé donc la brésilienne qu'il avait rencontrée dans le 5, qui se trouve était enceinte de son enfant et donc qui a accouché et donc
qui est Elsa Patakis, l'ex de Michael Youn, hein, pour ceux qui lisent Voici et
Gala. Je te crois.
D'accord.
Qui est donc le fils de donc Dominic
Toretto.
Il a un fils quoi. Et d'ailleurs dans ce film, j'ai adoré. Il y a un truc que j'adorais et qui n'était pas fait dans les autres. L'utilisation de tous les autres films depuis le 5. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la brésilienne du 5, ils ont utilisé l'espèce de l'œil de Dieu, je crois, ou l'œil du diable, je sais pas quoi, qui permet de savoir où est telle personne dans le monde, etc. Et ça, c'était effectivement le MacGuffin du 6 ou du 7. Et en fait, j'ai bien aimé qu'au moins, ils fassent l'effort d'utiliser des trucs qui existaient, et spécialement de personnages.
Ouais.
Parce que Jason Statham, le frère de Jason Statham, donc Luke Evans, ils ont réutilisé alors que c'était le 6 et le 7.
C'est vrai
c'est pas, genre, ils ont créé leur mythologie ils ont pas eu peur de dire franchement on va tout utiliser.
Et puis si vous avez pas vu les deux d'avant, c'est vrai que ça va être chaud de suivre hein, niveau scénario, donc c'est mieux d'avoir les bonnes références en tête pour pas être perdu parce que l'histoire est un peu chaude.
Après, du coup, revoyez le 6 et le 7 plusieurs fois avant d'aller au cinéma.
Deux, trois fois,
non, mais c'est pas non mal. Pas que nous, enfin franchement, clairement, j'ai, enfin,
on s'en tape.
Ouais, on s'en tape un peu, genre probablement, enfin moi-même je m'en rappelais pas, c'est juste que, enfin, tu t'en rappelles quand on te redit des noms, tu vois. En
tu
gros,
fais, ah,
tu
ouais.
fais, ah ouais, exact.
Certainement.
Et
certainement.
Je dis, c'est ça, c'est le mot, c'est certainement, ouais. Et donc, tu dis, ok, je valide.
Exactement comme quand tu valides les Black Ops, tu dis, ok, probably.
Kurt Russell qui arrive, il met ses Ray-Ban, il te dit, tu viens avec nous, tu fais, ouais, mais ouais, d'accord, y a pas de souci. Il te dit, on override tout, même et le président, tu fais, ouais.
On te fait accepter des trucs incroyables, parce qu'à un moment, quand il y a, en fait, il y a, juste avant que on se fait un peu cueillir, ou Toretto, part en mode rogue, à la base, il fait quand même un job avec The Rock à Berlin.
Oui.
Il dit, eh, ça te botterait pas de faire un petit job? Ils font une espèce de job, espèce de braquage où ils vont voler une espèce d'arme dans une base secrète.
Petite aparté, c'est là que tu vois qu'en fait, ils sont pétés de thunes parce que le gars, il lui dit, tu viens à Berlin, ça ne pose plus aucun souci. Non. Ils sont tous millionnaires, je crois, depuis le 6, ça,
c'est
je crois,
exactement ou... ça. Et du coup, on te fait accepter des trucs invraisemblables et à savoir ce que tu disais des voitures qui sont secondaires, c'est que les gars, il y a des transitions où on dit, allez, on fait un espèce de job, de heist à Berlin, on va genre braquer un truc et le plan suivant, tu vois un bâtiment et les gens, ils sortent de ce bâtiment en voiture.
Le mur explose.
Ils sortent de ce bâtiment en voiture.
Et
ils sont rentrés avec leur voiture.
Quand le mur explose, donc, je me suis
en fait, les gars, clairement, ils se déplacent et rentrent dans des bâtiments avec leur caisse comme toi, tu te déplace avec ton portable quoi, c'est-à-dire que leur voiture elle est partout quoi.
Ouais, c'est ça.
Genre c'est hallucinant. Est-ce que c'est pas hallucinant ça franchement que le gars il a sa Lamborghini en Sibérie quoi, tu vois, tu
mais en fait, mais c'est ça qui est pas mal, c'est genre ça fait un peu cinématique de jeu vidéo dans le sens où en fait, on a skippé la partie où tu étais dans le complexe à Berlin pour faire le heist et là c'était le moment où tu jouais avec ta manette, tu vois. Et là hop, t'as réussi et du coup tu les vois sortir et tu vois la cinématique arriver en fait, tu vois, c'est un peu le contexte du film.
C'est des sortes de super-héros sans super-pouvoir. Ils ont juste des voitures, quoi.
Super beaufs chrétiens, quoi.
Ou des tanks.
Ou des tanks.
J'aime bien tout le temps l'adéquation de la voiture du gars avec le gars et The Rock. C'est tout le temps des espèces de mi-tank, mi-molette,
ah oui. Voilà, parce que la voiture correspond à la personnalité du personnage. Y compris pour les femmes. Puisque les femmes ont le droit de conduire, hein.
Et en fait, on saurait pas. Au-delà de ça, parce que je repense à ce que tu disais du truc secondaire, moi j'ai l'impression que quand ils disent ouais, vas-y, viens, on va faire un braquage avec nos voitures, j'ai l'impression que moi je suis un peu avec mon pote Patch, on a 7 et 8 ans, on est dans une salle de jeu, on a des petites voitures.
Ouais, Amante Hot Wheels.
Et on fait notre braquage avec des petites voitures, on s'amuse comme des enfants, c'est un peu ça quoi. Et du coup,
ça, le scénario a été écrit par un enfant de 7 ans, ouais, a priori, qui s'est dit je vais.
Mais pour une fois, cet enfant de 7 ans était cohérent par rapport aux autres films. Ouais. Et c'était pas.
Mais il y avait une blague trop bien de The Onion où c'était un sketch sur Fast and Furious. C'était vraiment, ils avaient mis en scène des gamins de 5 ans qui avaient écrit. C'était genre. Et puis là, il y a une voiture et bam, ça explose.
Et du coup, alors attends, parce que du coup, voilà, Dom les trahit. Ok. Il se trouve que The Rock est donc renié par le gouvernement parce que c'était être une opération. Secrète et donc il s'est fait arrêter, donc il va en prison
à Berlin du coup.
Non, et aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Ou d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il va pas en prison à Berlin?
Oui, voilà.
C'est ça. C'est Black Ops.
Si tu peux pas comprendre. Et il va en prison aux États-Unis où on lui propose de genre on te sort de prison mais tu en gros tu changes d'identité plus ou moins quoi. C'est-à-dire qu'en gros tu n'existes plus, enfin, ou alors tu confesses, pardon. Tu confesses qu'effectivement, c'était interdit de ce que tu viens de faire. Et il dit non, ok. Parce que c'est pour ma fille, ok. Il faut qu'elle garde son nom et sa fierté, sa voix. Pour qu'elle fasse des AK et que je sois encore le coach sportif.
D'ailleurs, il y a un petit roquet administratif qui accompagne Kurt Russell, qui finalement fait partie de la famille, ensuite. Devient un héros.
Joué par Scott Eastwood, donc le fils de Clint Eastwood, quand même.
Ah, d'accord.
Qui ressemble assez, qui a assez la classe, mais qui joue en gros un mini Kurt Russell en formation, un stagiaire de troisième de Kurt Russell, quoi.
Qui devient un héros.
qui devient
qui affirme, sa virilité tout au long du film.
Absolument. Du coup, lui, il vit son adolescence, en fait.
Voilà.
Dans ses films.
Qui représente un peu le gars viril années 90, coiffé en brosse, Special Ops, tu sais, genre, il a fait son service en Irak et tout, quoi, tu vois.
Et il apprend les ficelles de la bureaucratie, Black Ops. Encore une fois, ça va devenir un mot, Black Ops, je pense.
Alors, est-ce qu'on peut évoquer la dernière scène, c'est-à-dire la traditionnelle, enfin, à mon avis traditionnelle, le même repas. Si j'ai pas vu les autres, c'est le repas de famille, avec le coca, les grillades,
toujours les Budweiser.
On est tous ensemble, et on est bien, on en profite pour donner le nom à notre enfant d'un ami disparu, à la fois disparu, puisque...
C'est le personnage de Paul Walker.
Voilà, puisque le personnage, en fait, est encore vivant.
Ouais.
Et donc,
j'ai cru qu'ils allaient l'appeler Paul d'ailleurs.
Ben voilà.
J'aurais bien aimé qu'ils l'appellent Paul, ça m'aurait fait pleurer, je pense. J'aurais émis une larme s'il avait dit je l'appelle Paul.
D'ailleurs, pendant le film, ils veulent convoquer.
Mais Paul.
Ils veulent demander de l'aide à ce personnage.
Méta, tu sais, genre.
Le truc méta, c'est qu'il avait appelé Paul, le gosse.
Pendant le film, il y en a un ou une qui évoque l'idée de demander de l'aide à ce personnage, donc à Brian et à Mia.
Ah oui, on lui dit.
Et là, on lui dit non, mais ça va, on va les laisser tranquilles, ils en ont fait, c'est fait pour nous, hein, ça va.
D'ailleurs, ouais. Et j'ai réfléchi à ça toute la nuit et je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. Fallait pas les appeler. Parce que déjà, Paul Walker est mort.
Déjà.
Et secondo, ça n'aurait pas été possible. C'est-à-dire que si tu appelles le personnage de Brian pour dire qu'est-ce qui se passe, le personnage de Brian aurait absolument voulu
tout à fait
partir et s'intégrer au truc, donc tu peux pas.
Mais c'est marrant, tu parles de la scène du repas parce que moi j'ai vu très récemment le 1. Et en fait, si tu fais une lecture un petit peu de l'évolution des paramètres économiques, déjà on va dire que on va situer que cette scène se passe. En fait, c'est en gros c'est une terrasse sur un penthouse à New York qui vaut probablement 15 millions de dollars.
Ouais,
quoi.
Ouais,
on va le dire, c'est le summum du luxe. Quoi.
Vu sur tout New York. C'est pas genre vu sur certains toits de New York. C'est vu sur tout New York.
C'est ça. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ça s'est un peu effacé, mais au tout départ, il y avait quand même quelque chose de très populaire, en fait.
Ouais,
Fast and Furious, c'était le gueuleton, le barbecue sur le trottoir, limite, tu vois, t'avais les voitures avec le capot ouvert.
C'est ça, le souci,
et t'avais des barbecues, quoi.
Sur le trottoir, dans le quartier défavorisé.
C'est ça.
Ça s'est bling bling rapisé.
Ouais.
Pour plaire aussi à la démographie qui aime justement le rap bling 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 bling, tu vois ce que je veux dire, le truc de genre des ballers, tu vois, des gars qui sont là et qui s'achètent des yachts à 500 millions de dollars et qui sont comme ça en mode je suis Kanye West et je t'emmerde, et ça c'est vrai que c'était quelque chose où tu sais t'avais le barbuck de Toretto, c'était un barbuck, il l'avait mal nettoyé de la fois d'avant, tu vois. Tu vois qu'il y a la suie.
Et puis c'était un barbecue avec des marques repères.
Un peu, tu vois.
Ouais, c'est ça, il y a des vieilles chips.
Il y avait des vieux chips marques repères, de la viande pas trop chère. Et est-ce que quelque part.
Il y a Pierre Gagnère, tu sais, qui est en mode 3 étoiles.
Mais là, est-ce qu'à la limite, s'il n'y a pas s'ils n'ont pas des servants.
Est-ce que quelque part, Fast and Furious, la franchise Fast and Furious, c'est pas justement la métaphore d'une ascension sociale, d'une réussite sociale.
Non, mais c'est gentrifié, en fait. Il y a une gentrification
mais
de
c'est pire que ça, parce que c'est. À travers cette métaphore, on te dit que tout comme ta virilité doit être prouvée par des courses de voitures. Tu ne vaux quelque chose que si tu deviens assez riche pour avoir un rooftop comme ça.
Ouais.
Et si tu n'es pas ça, si tu es encore au Nouveau-Mexique à faire des courses de voitures, tu es une merde, en fait, tu vois.
Mais au-delà de ça, dans les premiers, t'avais ce côté des valeurs et du respect où t'as un gars du quartier qui avait sa caisse, il pouvait avoir le respect, il avait
exactement
pas de
thunes. Ouais.
Alors que là, ça passe forcément par les millions de dollars.
Et là, le respect a une notion totalement galvaudée, tu sais, c'est juste un mot comme famille et respect, maintenant, ça devient plus rien, en fait. C'est juste pour gagner les gens qui disent ça chez eux.
Ouais.
Et du coup, c'est pour la thune.
Et puis, je voudrais interroger à nouveau la dimension éthique, quoi. Pourquoi ils agissent pour quelle, est-ce que c'est vraiment des héros? Est-ce qu'ils sont là pour sauver l'humanité?
Ah non, et d'ailleurs, attends.
C'est un délire de potes, moi, je crois.
Ouais, c'est
les
juste.
Les personnages sont dans un délire de potes.
Ils savent pas trop pourquoi ils agissent, en fait.
Mais ils sont en recherche d'adrénaline.
On a plein de thunes.
Total.
Est-ce qu'on prendrait pas nos Hot Wheels et on ferait pas des braquages? Mais c'est ça, en fait, l'histoire.
Cela dit, je trouvais qu'il y avait, je crois que c'était dans le dernier, il y avait une petite phrase assez cool. D'ailleurs, Brian, Paul Walker, c'est genre I don't miss the job, I miss the bullets, tu vois.
Ouais.
Et il y a tout ce truc de genre, tous ces gens-là sont là, mais juste pour risquer leur vie, quoi. D'ailleurs, en même temps, c'est ce qu'ils faisaient dès le départ avec les courses de voitures, donc quelque part, en fait, c'est un peu normal.
Une vie réussie, c'est une vie pleine d'aventures, quoi. Absolument. Quelle que soit la teneur morale.
Cela dit, je suis d'accord. Mais attends, revenons-en à la méchante, parce que Charlize Theron, en fait.
La méchante qui est peut-être gentille.
Ce qu'elle propose, c'est qu'en gros, elle veut posséder des armes nucléaires pour être le fail-safe des gouvernements mondiaux qui, s'ils faisaient de la merde, elle ferait détonner une arme nucléaire quelque part pour que plus personne ne fasse de la merde. Donc après, le souci, c'est qu'elle n'a pas explicité quelle était sa position politique.
C'est ça, on aimerait savoir son bord politique.
Voilà, ouais. Parce qu'en fait, si genre elle était en mode genre, oui, si la prochaine fois que quelqu'un arrête un Edward Snowden, je fais péter une bombe nucléaire, eh ben je serais pas ultra contre, tu vois. Parce que du coup, c'est comme... Et pour le coup, là, on rejoint tous les méchants de James Bond. Et quelque part, c'est un James Bond avec plusieurs personnes, Fast and Furious. Que, en fait, j'ai jamais été ultra contre les méchants de James Bond, quoi. Parce qu'en fait, t'apprends ce qu'ils veulent faire vraiment aux trois quarts du film, juste avant qu'ils meurent tués par James Bond. Et je me dis, ouais, c'est pas si nul que ça, ce qu'il veut faire le gars. Genre, à la place, tu discutes un peu avec lui. Et il y a moyen de faire ça sans trop tuer de personnes et quand même d'améliorer le monde, tu vois. Donc voilà.
C'est marrant parce que justement que tu dis ça, parce que dans l'évolution des interactions qu'il peut y avoir entre les personnages dans Fast and Furious, j'ai trouvé qu'il avait une dimension, ça faisait très James Bond en fait, que quand ils sont chaque fois dans leur arrière-base avec des espèces de scanners, de radars, de on se coordonne ouais, pour aller là où là, t'as un côté un peu James Bond-esque, j'ai trouvé gadgets.
Des gadgets qui sortent de partout. Mais là, clairement, gros clin d'œil quand ils arrivent à la base de New York, où il y a que des bagnoles. C'était genre le et d'ails je sais pas comment il l'appelle, The Toy Shop ou un truc comme
Toy
ça.
Shop.
Ben c'est pareil,
c'est James Bond. Avec cette caisse,
c'est James Bond, ça s'appelle un peu comme ça, non? Là où il y a Q et qui fait les trucs. C'est là où il y a, en gros, venez vous armer.
Ouais, sauf que James Bond, il saute pas dans tous les sens pour aller dans l'Aston Martin, quoi. Tu sais, c'est acquis, quoi. Alors qu'eux, ils sont comme des gros gamins en mode, allez, demain la voiture, allez, s'il te plaît.
Cela dit, Jason Statham, il saute pas dans tous les sens pour prendre son Aston Martin, il le fait avec classe. Et d'ailleurs, je pense qu'au lieu d'aller chercher, je sais pas qui pour jouer James Bond, il devrait prendre Jason Statham.
Et que penser? Que penser des traumatismes pour le jeune nourrisson, du coup, qui vit des scènes d'une violence inouïe.
Et genre, lui, il est comme ça.
On passe en cet enfant, on se dit, mais comment il va se construire au niveau psychologique, au niveau affectif.
Il a rien vu,
tu crois?
Rien vu.
Moi, je pense qu'il a vu des gerbes de sang.
Et d'ailleurs, je disais à Jean-Yves hier, il y a eu, parce qu'en gros, cette scène, c'est un gros clin d'œil à Volteface quand on met le casque au gosse pendant qu'il y a des gens qui se tirent dessus. Et en fait, le souci, c'est que ça manquait trop d'une scène où tu voyais le point de vue du gosse dans son berceau, en voir des gens courir dans tous les sens et peut-être se tirer dessus. Tu vois, ça aurait été pas mal de...
Qu'est-ce que les filles penseraient de ce film si tu vas avec ta copine au cinéma? Moi, je vous dis un truc, c'est que tu vas en date avec une fille... Et elle te dit qu'elle a aimé, demande-leur mariage direct, quoi. Parce que je pense que...
Et moi, je dirais le contraire, justement.
Je sais pas. Ou alors, on peut se laver partout.
Non, je pense, tu arrêtes le date, ouais. Si
parce que les chaînes de garde ont adoré le film, hein, il me semble.
Putain, mais c'est... Non, mais après, comme d'habitude, la vision... Mais la femme dans ces films-là, c'est de la folie. Hein.
Et encore. C'est un poil mieux qu'au début, parce que dans le 1... Ah non, mais attends, dans le 1, les femmes, je te jure, ça commence, donc on établit un espèce de il y a un espèce de paramètre rodéo urbain où la femme n'est que le trophée du mâle alpha qui conduit la voiture, et il y a une scène dans le 1 où t'as une fille qui s'approche de la voiture et elle lui prend la main, lui met la main sur les seins en disant « Ils sont à toi, gagne pour moi, ces seins sont à toi !» Donc il y a vraiment une appropriation du pack, et en fait ce qui est marrant, et ça tu le revois dans le dernier qu'on a vu hier, c'est que t'as vu truc sur Alice, est-ce que t'as déjà vu des voitures se déplaçant en meute dans la rue? En fait, les gars, quand ils se déplacent, ils sont toujours de front, en fait, en voiture. Ils roulent jamais en file indienne. T'as une espèce de côté du pack de Wolf, en fait, où ils sont avec leur mode alpha, avec leur meuf, et ils font des courses. Et je trouve que, et dans le 1 aussi, tu vois, c'est qu'il y a le personnage de Mia aussi, parce que c'est pas Rodrigo.
C'est la sœur de Dominique Toretto. Voilà.
Et en fait, ces meufs, elles ne sont là que pour faire les secrétaires dans les garages genre et tenir des comptes, quoi. C'est des secrétaires, quoi.
Mais le truc, c'est que, là, moi, je trouve que la scène du début de Cuba, c'est pire, quoi. C'est-à-dire que, en gros, les meufs, elles sont là, mais que, effectivement, presque genre un buffet. C'est un buffet. C'est la meuf, elles sont là. Elle montre la moitié de son cul pour en envoyant un drapeau pour dire la course est ouverte. Elle n'existe pas. C'est genre, c'est des petits animaux à baiser, tu sais. Qui sont là comme ça. Et après, et le truc, le fait que après, il y ait des meufs dans l'histoire, je suis sûr, c'est pas une volonté artistique ou genre sociétale d'avoir Michelle Rodriguez, tu vois. C'est juste le fait que les gars se disent, ouais, mais si on n'a pas de meufs, on va nous le reprocher, tu vois. Et c'est juste ça.
Ouais.
Et tu vois, c'est un peu comme genre faire de la discrimination positive parce qu'on va te le reprocher. C'est, du coup, t'es quand même raciste, tu vois. Mmh. C'est juste que tu fais ça par peur pour juste vendre un peu plus, quoi.
Alors, c'est heureusement, Michelle Rodriguez a son propre véhicule et le conduit avec brio.
Oui, c'est vrai.
Et puis,
pas le cas au début. Hein,
et puis, il y a une autre fille dans l'équipe. Dont je ne sais plus le nom du personnage, mais c'est une oui, c'est une, je crois que si j'ai bien retenu, c'est une
fait, it is known.
C'est une génie de l'informatique, ouais. Et donc elle a l'air beaucoup plus compétente que ses camarades, quoi. Et donc c'est une bonne chose quelque part.
Ouais, mais elle, c'est la passagère, tu sais, tout le temps.
Ah, elle conduit pas?
Non, elle conduit pas. Ah. Je sais pas si t'as remarqué, elle conduit jamais.
Ah, ben, c'est dommage.
Non, mais ceci dit, tu vois, t'as le droit d'avoir quelqu'un dans ton équipe qui conduit pas forcément, mais oui.
Et d'ailleurs, il y a deux personnages qui passent le film à draguer cette meuf. Chaque blague tombe à l'eau, c'est insupportable.
Ben, c'est ça, c'est le Ludacris et Tyrese Gibson. Ces gens-là, il faut les enlever, quoi. Mais vraiment, ils servent à rien, ils sont nuls, ils me mettent mal à l'aise pendant tout le film. Mais je te jure.
Oui, mais ils font partie de la famille depuis très longtemps, depuis plusieurs films.
C'est pour ça qu'ils restent, tu vois. Alors que franchement, moi, un putain de spin-off, je suis déjà redit. Les gars, si vous m'écoutez, Jason Statham, Kurt Russell, The Rock, j'ai besoin de personne d'autre, quoi. Vin Diesel, peut-être un peu. Et c'est terminé après.
Moi je le redis, mais j'ai quand même adoré les transitions. Elle s'appelle Nathalie Emmanuel d'ailleurs, l'actrice qui joue. Elle joue la suivante de Khaleesi dans Game of Thrones. Ouais. Et en fait, il y a à un moment au début, il y a une transition. Et moi je suis encore déçu. Moi je ferai tout pour qu'ils partent en mode Running Scared pour le 9. Mais à un moment, c'est comme ce que tu disais, Areski disait, ça faisait des transitions un peu à la Lego Movie, c'est-à-dire que quand on arrive à la base Black Ops, le surtitre, le titre pour dire où on est, c'est un endroit secret. Tu sais, il y a aucune volonté à géolocaliser, c'est secret, tu sais.
C'est Black Ops, c'est Black Ops.
C'est Black Ops, tu peux pas savoir. Loco secret.
D'ailleurs, à quand le Lego Fast and Furious, quoi?
Ouais. Mais c'est une trop bonne idée. Lego Fast and Furious. Ce
pourquoi
serait
pas
trop bien, en
pourquoi
plus.
Pas.
Attends, mais non, c'est Universal, du coup, ils ont pas, je pense pas qu'ils aient les droits.
Mais... mais est-ce que vous achèteriez, si vous aviez des enfants, est-ce que vous achèteriez à vos enfants,
jamais.
Filles ou garçons, des Lego Fast and Furious? Jamais, on est bien d'accord. Voilà. Ah! On n'a pas parlé. On n'a pas parlé de la musique. On n'a pas parlé de la musique. C'est important de parler de la musique parce que alors il y a beaucoup
la musique,
de
le score ou la
alors les deux. Alors il y a le soundtrack, donc c'est des chansons électro en mode
électro rap
très mainstream.
Ouais.
Et entre ça, il y a
mainstream pour des Américains parce que pour des Français, c'est pas des trucs qu'on entend beaucoup pour le coup.
C'est énergie 12, W9.
Ce qui se passe
là. Ah oui,
là,
tout à fait.
Mais ça fait un peu plus sûr, hein. Vague urban rap américaine.
Ouais, parce que
je
moi,
mais t'as raison, tu pourrais voir.
Mais je vois sur la famille, mais je suis pas sûr que. Enfin, ça va peut-être arriver dans 2 mois du coup. Mais.
Et sur le score, on a quelque chose de. Je me souviens d'une scène avec donc Dominique Toretto et le personnage de Michelle Rodriguez, donc ils sont à l'hôtel pendant la lune de miel. Il y a vraiment une musique de film érotique des années 90 avec la guitare. Ou la mandoline
en mode Mark Mancina mais des années
voilà,
Bad Boys,
c'est vraiment
mais encore une fois Running Scared over the top, c'est-à-dire qu'ils auraient pu encore mettre un cran dessus et forcer la musique et,
oui.
Et ça aurait pu être ultra caricatural.
Il était du saxo et il me faisait ma soirée. Mais je pense que j'aimerais bien avoir un gars en plus, un réalisateur qui arrive et qui va pas jouer le jeu de la famille, le truc comme ça, et qui va aller en mode, je me fous de ta gueule il de faut, A à Z.
Il faut Paul Verhoeven. Paul Verhoeven,
mais oui, c'est le meuf. Il faut Paul Verhoeven parce que, ou pire, lui, il va y aller à mort, tu vois. Il va faire genre, ouais, la famille pendant tout le film, avec des explosions et des insectoïdes.
Il faut absolument qu'on ait un Paul Verhoeven qui fasse comme il a fait sur Starship Troopers.
Mais oui.
Il dit, tu veux que je te fasse ça? Ok, je vais te le faire, il n'y a pas de souci. Et ça finirait comme un Showgirls, tu vois, où t'aurais vraiment des petites pépites et c'est pour toi, c'est cadeau.
C'est clair. Ouais,
ça serait génial. La prochaine étape, je pense, c'est un Fast and Furious soit zombie, soit extraterrestre. Soit extraterrestre. Soit dinosaures.
Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que dans le 9, il y ait un
truc... Il y a des dinosaures.
Non, mais à base de vaisseaux plus ou moins spatiaux, quoi. Tu vois, genre un X-71 qui va genre dans la stratosphère ou un truc comme ça. Genre, c'est... on n'est pas ultra loin. Parce que je vous rappelle qu'on a assisté quand même à ce film de genre, à un moment, il y a une course-poursuite avec des voitures et de nulle part... T'as des gars, ils ont des jetpacks.
Ah oui, ils ont des armures d'Iron Man, ouais, c'est vrai.
C'est trop bien.
Faut qu'on parle aussi de comment sont dépeints les personnages russes.
Oh là là.
Parce que, en mode, tu sais, parce qu'autant t'as, c'est ultra cliché.
C'est toujours le même acteur qui joue
et
le
Et tu sais, dans... alors, que la première fois qu'on voit, quand ils arrivent en Lamborghini, sur des lacs glacés en Sibérie, là, ou je sais pas où, il y a la première fois qu'on voit un russe qui check un petit peu dans sa tour à la jumelle, genre il a une bonne barbe, il a une chapka, tu sais, c'est genre c'est le russe vraiment ultra stéréotypé, un petit peu traditionnel un peu, tu vois.
Ouais.
Et en fait c'est des, je sais pas comment expliquer, mais c'est un petit peu des, c'est un peu des gobelins quoi, tu sais, genre je sais plus.
Oui, c'est des vagues.
À chaque fois qu'ils se déplacent, genre ils foutent un bordel dans cette base, et à chaque fois qu'ils passent un mur et qu'il y a des russes nouveaux, genre ils sont autour d'une table en train de jouer aux cartes, tu sais. Ils ont pas entendu qu'il y avait du bordel. Et ils sont là en mode gobelin. C'est un truc de malade.
C'est déjà, ils sont tout le temps là pour se faire buter, quoi. Juste pour se montrer avant de mourir, quoi.
Et là où ça devient fou, c'est-à-dire que t'as Kimi et Erwan qui ont invité leur pote Jean-Jacques pour leur partie de Lego de l'après, mais là c'est over the top parce que Jean-Jacques il est un peu plus âgé, du coup dans les petites voitures il veut ajouter des sous-marins, tu vois. Donc ça finit le film en mode poursuite de voiture, sous-marin qui sort de l'eau, qui glisse, qui jette des torpilles, qui sont redérivés par The Rock.
Ah oui, d'ailleurs, attends, il y a des scènes trop bien dans cette cette course-poursuite sur la glace, elle est mille fois trop longue.
Ah oui.
Mais
le plan
tu
de loin.
Tu coupes tout et tu gardes que les trucs géniaux, c'est-à-dire la Lamborghini qui presque va dans l'eau et ensuite Tyrese Gibson qui finit sur la portière.
Quel gâchis
pendant que $1 million.
Non mais c'est un gâchis.
Qui finit sur la portière.
Un gâchis de gros gamin, quoi.
The Rock qui dévie des torpilles et Dominic Toretto qui attire le missile vers le sous-marin. Tu faisais ça en 2 minutes max et j'avais jamais vu des scènes d'action aussi.
C'est vrai, on est d'accord, c'est beaucoup trop long, mais je voudrais revenir aussi à ce qu'on disait sur l'évolution économique, parce qu'il y a un gâchis de malade dans ce film, mais je voudrais savoir comment se sent le Tamaro. Le Jackie ultra fondamentaliste, tu sais, c'est-à-dire le gars qui regarde le 1, parce que dans le 1, tu sais, c'est
le
pour
Jackie
ça que
c'est ça. Ultra fondamentaliste.
Mais c'est ça.
Le Jackie Daesh, tu sais.
Mais c'est ça.
Qui est là, qui fait, oui, je comprends pas. Au début,
non,
c'est on mettait du nos.
Dans le 1, Paul Walker, il conduit, c'est une Toyota Supra, je crois. C'est une voiture qui est vraiment, c'est des voitures standards, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en gros, dans les premiers films, les personnages avec leur voiture, ils véhiculaient un petit peu ce truc populaire. C'était le gars qui fait du tuning, qui fait du dub. Mais ça te laissait toujours penser que c'était des voitures qui étaient abordables.
C'est
pourquoi
ça, une voiture pareil, que tu peux connaître, même voilà, dans ton entourage, mais qui a été tunée à un point où tu dis,
parce
ah,
que
mais c'est incroyable.
Là, c'est ultra exclusif. Les gars, ils conduisent des Lamborghini, ils conduisent des Bentley,
des Bugatti,
c'est,
ouais,
des Bentley, c'est des bagnoles à des centaines de milliers de dollars. Quand du coup, je sais pas comment est-ce que le
Boller, c'est Boller.
C'est Bollers. C'est Bollers, mais du coup, c'est le seul qui, même si ça évolue un peu, t'as vu, il conduit la Dodge Challenger qui conduit un petit peu au début aussi,
ouais.
Puisque Toretto, il garde un petit peu cette franchise de la muscle car. C'est muscle car, c'est franchisé, c'est qu'un riz.
Parce que c'est américain, voilà. C'est genre mes valeurs à moi, c'est américain.
Et puis c'est la virilité aussi.
C'est
oui,
ultra viril.
Parce
ouais.
que le bruit est trop viril pour laisser ouais. tomber ça, pour prendre autre chose, quoi. D'ailleurs, j'ai bien aimé la chevauchée des voitures commandées à distance
c'était peut-être la seule touche originale
c'était cool, et quand elle dit make it rain ouais. et qu'il y a toutes les voitures qui tombent, c'était pas mal, même si effectivement toute la scène ouais. c'est un peu trop long, Et la scène des grappins en plein New York, j'avoue qu'elle est cool quand même. Ouais. Genre chacun met un grappin sur sa voiture pour essayer de l'écarteler.
Mais cette scène,
je crois que je dormais.
Mais cette scène, elle symbolise vraiment jusqu'où les scénaristes sont prêts à aller pour ne lâcher les voitures sous aucun prétexte. Parce que dans cette scène, comment t'arrives, c'est surréaliste d'arriver à mettre des voitures dans cette scène. Il y a des grappins, on n'a qu'à faire jeter des grappins des voitures, quoi. Parce qu'il faut que la voiture soit un prolonge pour le corps, quoi, quelque part, tu vois.
Et pour le coup, j'ai trouvé ça bien, parce que, et effectivement, on revient aux voitures, parce qu'à un moment, c'était pile la scène, je me suis dit, il y a pas mal de voitures quand même dans ce film. Alors que j'avais l'impression que les derniers, on s'en foutait totalement des voitures. Genre, Fast and Furious était devenu un prétexte pour juste faire des scènes d'action avec autre chose, tu vois, genre à base de je fais du parachute des trucs comme ça, tu vois, et c'est devenu triple X. Et là, du coup, il y a eu une volonté de retour aux voitures, ce dont je me fous totalement. Je n'ai rien à branler des voitures, mais je me dis, tu vois, il y a eu un petit effort, tu vois.
Et c'est marrant d'ailleurs, parce que d'ailleurs à Cuba, ils sont trop dans une carte postale des années 50, parce qu'ils sont tous en train de
ce qui est vrai aussi,
c'est plus ou moins vrai, mais je pense pas qu'aujourd'hui, si tu vas à Cuba, tout le monde se trimballe en voiture des années 50, quoi.
Ben, c'est-à-dire qu'ils en ont énormément.
Ils en ont énormément, ouais. Mais ça faisait ultra, ultra carte postale clichéisée à mort, quoi. Mmh.
Ouais.
Les pina colada, les petites chemises.
Non, mais oui, ça par contre, ça se voyait que
c'était. Les gars qui passent en trompette dans la rue.
Ça, les meufs, les petits Panama, comme ça. C'est nimp.
Ouais.
4 étoiles, quoi. 4 miams. Les gars, les gens, ils le revoir dessus.
Et puis, comme tu disais, la facilité, parce que Dom qui est un petit peu dans sa suite au Hilton à Cuba, là, et qu'il est en train de, toujours en train de faire la mécanique, hein. Il y a du luxe, mais le gars, il trafique son moteur sur la table, tu sais. Il a un téléphone satellite et la facilité. On va à Berlin. Ouais, demain, j'arrive, tu sais. Genre, c'est easy. Il prend le bus, le gars. Genre, c'est easy peasy, quoi.
C'est sur la ligne 2, non, Berlin?
No limits. Il y a vraiment no limits, quoi.
D'autres choses à dire? Il y a une scène qui vous a marqué particulièrement? Je pense qu'on a tout dit là. On a été bon là, non?
Je suis en train de revoir. Non, c'est.
Ben moi, ce que j'ai aimé, c'est The Rock qui entraîne une équipe de soccer d'enfants.
Trop bien.
Voilà, parce qu'il fait un super entraîneur et.
Moi, j'ai bien aimé les scènes de baston en fait avec The Rock. Ouais. En fait, quand il tape des gars, c'est une boule de bowling en fait. C'est-à-dire, les gars, c'est des quilles. En fait, il met des coups. Les gars, les gens, ils volent dans tous les sens. Il y a un côté, tu sais, force décuplée. Tu sais, genre, le gars, il met des coups points comme un bulldozer, quoi.
À côté, il y a Jason Statham qui fait son parcours là, son Yamakasi. Et ouais, et The Rock, à chaque punch, il y a trois gars qui tombent.
Il représenterait peut-être ce gars. Ultra stéroïdé, tu vois, c'est-à-dire le gars, la force que je peux plus contrôler tellement j'en ai, quoi.
Mais d'ailleurs, ils en font mille clins d'œil pendant tout le film. Tu sais, à un moment, il est énervé que Jason Statham soit soi-disant mort. Il donne un coup à un mur en métal et le mur en métal, il a une cicatrice, tu sais, ça veut rien dire.
Ah là là, petite apparition de Hélène Mirren aussi, qui est la mère de Jason Statham, gratuite, tu sais, genre.
Et de Luke Evans aussi.
Petite blague, petit accent british, petite blague qui tombe un petit peu à l'eau, moyennement drôle, voilà, c'est ça, y a un rythme un peu bizarre, en fait, il y a vraiment ce truc intéressant c'est pour ça, il y a ce côté forain t'as vraiment l'impression que c'est un film qui rassemble des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
C'est possible, c'est ça.
C'est assez étrange, quoi, comme sensation.
En tout cas, c'est un bon moment avec vous. C'était bien.
C'est vrai que c'était plutôt un bon moment, quoi.
Puis comme d'habitude, ça nous fait rigoler. Non, mais PJ, quand il aime pas, il aime pas.
C'était un moment moyen, on va dire.
C'était moyen, ouais. C'est vrai que c'était...
PJ, il change d'avis en 4 secondes.
Mais en fait,
non, PJ, c'est vrai que c'était bien, c'était moyen.
J'aimerais quand même être indulgent avec le film, parce qu'encore une fois, c'est un numéro 8. Et combien de bouses on a eu déjà sur rien que sur des numéros 2, quoi. C'est-à-dire que je trouve que pour un 8, ça reste relativement solide en produit, quoi.
Est-ce que c'est un 8 ou est-ce que c'est un 3? Je suis désolé de revenir à ça, mais moi j'ai l'impression que depuis le 5, c'est une autre franchise, en fait. C'est pas la même chose. C'est genre, c'est des gars, ils ont demandé des budgets rallongés de 135 millions de dollars, alors qu'avant c'était des films genre à 80, et c'était pas pareil, tu vois. C'est pas pareil quand tu peux mettre un petit sous-marin en plus.
Curieux de savoir le budget d'ailleurs de ce film. C'est des films qui marchent très bien.
Là, c'est
150.
Oh, là peut-être même.
200
même, ouais, entre 150 et 200.
Parce que Monde, enfin, Box Office Monde, ils font toujours 1 milliard de dollars.
Là, maintenant, ouais.
Ouais. Donc, sur le 7, ça avait vachement marché. Alors, peut-être que ça avait marché avec le truc de Paul Walker, mais...
It's been a long day. Putain, j'ai failli pleurer à la fin du set. C'était trop beau.
C'est très émouvant. Hein,
vous voyez Paul Walker qui s'éloigne.
Putain. C'est un gars qui a du cœur.
Il nous manquera, j'étais sûr.
C'est quelqu'un de la famille, quoi.
C'est la famille.
L'ami, les bagnoles, les meufs.
L'intégrité du FB.
Et n'oubliez surtout pas de faire la prière juste avant le début du repas.
Ah ouais.
Putain. Tout ce que j'adore, quoi. C'est n'importe quoi.
Qu'est-ce qui se passerait d'ailleurs si en France sortait un film sur
ah ouais,
un gars qui
comme
fait
ça.
Du tuning et qui est très catho en fait.
Mais ça n'existe pas en fait, non? Parce qu'en
pourquoi
fait,
pourquoi pas? Mais c'est vrai, ouais. C'est vrai que le
si
le...
je pense que ça existe.
C'est qu'en fait le stéréotype si du catho. Existe, ouais.
Mais à l'américaine, peut-être pas. Tu sais pas autant dans la démonstration.
Ah mais tu dis le cato gros maître sur vêtements.
Non
quoi.
Mais est-ce que un personnage tu de Dom Toretto tel qu'il est dans tout ce qu'il véhicule est transposable à un Jaco français quoi? Est-ce que c'est faisable ou pas? Et si c'est faisable, est-ce que demain peut sortir un gros film français où le héros c'est un gars qui fait la prière?
Ah oui, ça mais c'est Taxi en fait.
Ouais, oui, c'est vrai. Mais dans Taxi, il est
ah
pas,
attends. Ah, on va améliorer ça. On va améliorer ça. Ok, Fast and Furious français.
C'est Taxi.
Musulman. Parce que le gars, c'est Dominique Toretto, pratique religieuse. Et du coup, c'est musulman. Parce que en fait, c'est mille fois plus, parce qu'on est dans le stéréotype. Tu vois ce que je veux dire? C'est mille fois plus facile d'avoir un stéréotype d'un, parce qu'en fait, c'est des mecs du quartier, quoi, là-bas. De Fast and Furious.
Très intéressant. C'est un super, ça marcherait trop, d'ailleurs.
Ça marcherait trop.
Mais oui.
Ça marcherait
trop.
C'est
une polémique, on pourrait. Ça serait,
ah ouais.
Ça poserait la question. Mais pourquoi moi j'ai pas le droit en fait? Si Dom Toretto ça pose pas de problème.
Exactement.
Pourquoi j'ai pas le droit de faire ma prière avec mes potes du quartier et on fait des courses de bagnole?
On fait des courses.
J'ai pas le droit.
C'est ça.
Mais c'est ça. C'est un. Qu'est-ce que t'en penses, Patch?
Ouais, il y a quelque chose à faire avec des BMW, des Mercedes, je pense, d'un peu sympa.
Est-ce qu'il existe dans le cinéma populaire de grand public français des personnages qui ont une espèce de d'affirmations religieuses comme ça, en mode quotidienne, c'est-à-dire on va à la messe le dimanche. Il y avait un personnage un peu comme ça et qui ressemble, c'est le, tu sais, ce gars Joseph Gordon-Levitt quand il se filme avec avec Scarlett Johansson.
Oui, mais ça marche aux États-Unis en fait.
Ouais.
Et pareil en France, à la limite ça marcherait, mais pour les vieilles mafias, tu vois, ou un peu genre le gars de criminalité, mais issu de je sais pas, d'Italie, où tu vois, les gens genre qui sont chrétiens, mais qui sont criminels, tu vois.
Ouais.
Et mais le truc, en France, on est tellement, on se fout tellement de la gueule de la religion, qu'effectivement, il nous faudrait autre chose. Il nous faudrait une religion dont on peut moyennement se foutre de la gueule.
Après, là où c'est un petit peu particulier, justement, pour les cathos américains, c'est que, même si ça existe déjà en France aussi, parce que moi je me suis marié récemment, en plus dans une église, et j'étais pas du tout convaincu, et du coup il y a un côté, tu sais, tu es chrétien un peu de tradition, tu sais, t'as été élevé dans une tradition chrétienne, tu vois. Et aux États-Unis j'ai l'impression qu'il y a un côté politique de proximité avec ça, c'est-à-dire que je pense que pour t'intégrer dans un petit village, ça le fait d'aller à la messe, tu vois, il y a un côté un petit peu politisé et puis un petit peu social, quoi. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont pas forcément ultra pieux, mais qui vont pratiquer un petit peu ce catholicisme un peu de proximité pour s'intégrer. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Mais le truc, c'est qu'il y a, il y a une toute autre vision de la chose. L'anticléricalisme ici s'est fait de telle manière que maintenant, de manière artistique, si tu veux présenter un personnage, il faut expliquer pourquoi. Il serait religieux. Alors qu'aux États-Unis, tu peux le présenter avec une croix. On a un peu compris qui il est déjà, tu vois. Il y a des choses, t'as même pas besoin de le trop montrer. Tu laisses sous-entendre un peu et ce serait fait. Alors qu'en France, genre, il faudrait presque t'aies un sous-arc pour dire pourquoi est-ce que ce gars, il va à la messe, en fait. Comment ça se fait? C'est tellement bizarre, c'est normal, genre tout le monde parle de la désertification des églises les dimanches et tout ça. Du coup, tu te dis, mais pourquoi ce gars il y va? Alors que derrière, à côté, il fait des courses de voiture.
Ouais.
Donc voilà, c'est mon point de vue.
Donc on attend le Fast and Furious français avec impatience.
On le fait, non? On écrit un spec script. On l'envoie à Europa Corp.
Du coup, ça sera avec des Peugeot et des Renault ou...
Voilà, il faut revenir au
Made
vrai
in France,
truc.
Made in France.
Ouais, voilà, au vrai truc de genre de la, du vrai tuning. Et des motos, peut-être, un petit peu, pour te faire
plaisir. Qu'est-ce que c'est le... ce film se prête à quelle école de tuning, tu dirais, Reski?
Quelle école de tuning? Bah, celle-là, il n'y a plus de tuning du tout.
Il n'y a plus de tuning du tout, ouais.
C'est, à la limite, si, parce que dans les deux premières minutes, parce qu'il met du noce à une voiture, quoi. Mais du coup, on n'a plus les scènes de tuning réelles du 1 où y a les gens se posaient des questions à utiliser leur clé molette. Voilà, ça. Et dire, je vais faire ça. Et d'ailleurs, avant, il y avait... Non, je risque de confondre avec 60 secondes chrono, mais tu sais, il y avait un personnage un peu comme Giovanni Ribisi, tu sais, qui était en mode, genre, je suis le mécano et je c'est sais ça. Que cette bouteille-là va fonctionner avec ça. Et là, on n'a même plus ces discussions. Les voitures sont toutes... Ouais. Ou c'est non, ça. Équipé de nains ou pas.
C'était l'atout et... réglage moteur de l'équipe.
Il n'y a plus l'artisanat, fait. Tu vois. Ah ouais. Et c'est non. Ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, tout comme on a perdu la pauvreté, on a perdu le système D, l'artisanat. Maintenant, tout est à base de j'achète tout ce qui
c'est
est fait.
Sous-traité. Mmh.
C'est sous-traité, j'achète ma bagnole $1 million, il faut qu'elle ait tout déjà.
Mais ouais. Est-ce qu'à l'époque de Fast and Furious 1 et 2 aussi, le tuning n'était pas beaucoup plus à la mode que maintenant?
Ah, est-ce que tu veux dire que genre il s'éloigne du tuning parce que
je pense que ça l'est encore, hein. Ça l'est encore, ça en fait le tuning qui est présent dans les premiers Fast and Furious, c'est un tuning maintenant qu'on retrouve beaucoup plus en Asie, tu sais, le truc de où il y a pas de limite, tu peux tuner ton moteur comme tu veux, aucune norme. Maintenant aux États-Unis, je pense qu'on est un peu plus, même si ça existe encore, on est un peu plus dans le, tu sais, le dub façon Pimp My Ride, en fait, où c'est et c'est marrant parce que du coup même aujourd'hui en vrai ça a suivi cette évolution ultra luxe, parce que maintenant quand tu vois des vidéos de gars qui font du dub genre à Los Angeles, qui font des caisses, c'est des billets de 200-300 000 dollars. C'est un commerce de luxe, en fait.
Ouais.
Le tuning de proximité a laissé place justement à du dub de luxe, donc du coup ça a évolué.
C'est, mais c'est la version américaine de ouais. Tout, c'est-à-dire qu'une fois que le business est lancé, au début tu pouvais toujours avoir un petit attrait à la tradition, à la personne qui a créé son job, mais au bout d'un moment le créateur ne devient CEO et se détache de ce qui touchait au début, quoi. Et du coup maintenant Dominique Toretto, tu le vois, enfin tu sais, c'est pour ça que à la limite j'ai eu ce petit clin d'œil au début quand ils étaient à Cuba, parce qu'il met une petite truc de canette de coca sur une durite, ouais, etc. Ouais. Mais que clin d'œil, parce qu'après pour dire, regardez, est-ce qu'il vient de là, mais il vient de là, mais il est plus du tout ce gars maintenant. Parce que maintenant il prend des buggy vitre blindée.
Et tu l'as là. D'ailleurs qu'à ce moment-là, parce que c'est le seul moment où il y a un petit côté bricole, où il bricole son moteur, c'est tout, et tu l'auras que là. Ouais.
Si, après, il y a Scott Eastwood qui fait du bricolage de sous-marin, normal.
D'ailleurs, t'as remarqué ce détail de Jackie Jacko dans leur super entrepôt, il y a une salle où il y a que des jantes. Tu l'as vu ou pas?
J'ai pas fait attention.
À un moment, ils sont dans leur entrepôt et il y a un petit box en verre, tu peux rentrer dedans, et c'est une expo de jantes, en fait. Donc tu sais, tu peux choisir tes jantes pour ta voiture. Donc,
ce qui me fait penser que la super vilaine, donc jouée par Charlize Theron, a une salle dédiée à ses pistolets, ses fusils d'assaut, ouais. Mais il y a aussi ses chaussures à talons, ses chaussures d'intervention. Enfin, elle a une super
chaussures
dressing.
Chaussures d'intervention. Là, c'est Tac Heels, tu sais.
C'est
Heels Black Ops. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on enchaîne sur d'autres trucs de notre vie, non?
Ce serait pas mal, ouais.
Bon, bah merci à tous d'avoir écouté jusque-là, hein. Vous avez été vraiment courageux. Et vous savez quoi? Vous devriez inviter tous les gens que vous connaissez sur Facebook à aimer la page Facebook de Fin de Séance.
Et les troller jusqu'à ce qu'ils mettent une note 5 étoiles sur iTunes. Ah ouais. Parce que c'est le seul moyen, malheureusement, d'avoir des écoutes, c'est d'aller noter sur iTunes.
Et faites-le vous-même, d'ailleurs. N'oubliez pas d'aller sur iTunes et vraiment mettez les 5 étoiles avec un commentaire. Ça compte trop! Mais fais-le! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu nous écoutes? Fais-le!
Et Areski propose des striptease à domicile, hein, pour chaque 5 étoiles livrées. Voilà, il est très
ça,
beau.
Vous m'envoyez votre adresse.
La même soirée, il te fait du stand-up striptease. C'est un espèce de package. Tout compris, il te fait livrer des sushis.
Je viens avec des mojitos et tout.
Oh là là, excellent.
Tout va bien. Excellent. Bon, allez, bisous à tous.
Bisous.
Bonsoir.
Bonjour et bienvenue dans ce numéro
50
de Atmos.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.